Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le mec, il a trois sélections, il vient du Diable Vauvert, hop, trois sélections, il met deux buts. Pourquoi tu lui donnes pas sa chance? Ça te donne un arc, une possibilité supplémentaire.
Le seul truc qu'on voit vraiment de palpable, et qui est palpable visuellement, enfin, ça ne veut rien dire ce que je dis, mais...
And, quelle surprise! Just imagine, they can go top of the table in Ligue 1 if they win on Friday night at home against Lille.
Il y a Florentino qui était sur la ligne, il fait...
Mais qu'est-ce pas ça? Fred Hermel, tu parles de Barça? Mais qu'est-ce que ça?
Il était coupe la ligne.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast. C'est Génération After, spécial Drôle de Dame. La seule émission à la radio qui parle pendant 2 heures de football étranger. Pour l'Italie, une drôle de dame qui peut se la raconter aujourd'hui. Son pays devient le premier à envoyer 5 équipes en Ligue des Champions. Pourquoi faire? C'est notre question, mais bravo, bravissimo Johan Crochet. Bonsoir.
Ah, j'y suis pas pour grand chose,
mais si, c'est toi championnat.
Le pourquoi faire va devenir un thème dans pas très très longtemps, mais en tout cas, il y a la satisfaction au moins d'être pas mauvais en Coupe d'Europe depuis 2 saisons.
Vous avez des ambassadeurs, les amis. Pour l'Espagne, dans le dame qui peut aussi se la raconter aujourd'hui, comme chaque année, son Real fait le printemps. Bonsoir, Fred Hermel.
Hola, chicos.
Qui rime avec hirondelle.
Exactement. Le Real, l'hirondale. Oui, oui, c'est vrai que ça peut le faire. Oui, bah nous, on en aura que 4, hein, mais bon, voilà. On aura sûrement, peut-être, une nouvelle
coupe grande oreille
dans la vitrine.
T'as vu quand même,
hein, quand même. Peut-être. Alors, bon, parce que comme chantait Jacques Brel, mais même si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être.
Pour l'Allemagne, une drôle dame qui peut également se la raconter. Elle héberge en son sein la plus grande invincibilité de l'histoire. Et 2 demi-finalistes de Ligue des Champions, Polo Breitner est avec nous. Bonsoir mon cher Polo.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde. Vous savez ce que c'est que la blague en ce moment? Parce qu'on parle beaucoup de la 5e place, évidemment, voire de la 6e en Ligue des Champions, en fonction de différents résultats. La blague, c'est le supporter du Bayern qui dit « Mais ah, enfin, c'est fini les semaines anglaises ». Et un supporter de Dortmund qui répond « Comment ça, on va avoir moins de matchs ?» Et t'as un supporter de Leverkusen qui répond « Mais non, il n'y a plus de club anglais ».
Tout à fait.
Mais justement, après, c'est l'humour allemand. Hein.
C'est l'humour allemand.
Mais l'English Oberon, les semaines anglaises à 3 matchs par semaine, c'est ça.
Et puis justement, une drôle de dame anglaise qui... Bah rien. Ah si, pardon. Aston Villa était en demi-finale de la Conference League. Bonsoir Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous. Non, il faut laisser gagner les autres un peu. J'en ai marre de gagner tout le temps, franchement. Je suis toujours en finale. Mais c'est bien de laisser gagner les autres. Bah, pas Johan, hein. Pas Johan, parce que Johan, il peut pas gagner encore la Ligue des Champions. Mais pour les autres, j'aimerais bien que Polo y gagne, parce que Polo, ça fait longtemps qu'il a pas gagné la Ligue des Champions.
Donc Polo, j'aimerais bien. Gestion intégrale, là.
Ton championnat. League of the World.
Globalisé, multimilliardaire.
Every single day.
En tout cas, c'est meilleur que
la conférence. Mais c'est quoi ça?
C'est meilleur que Calcio is back, hein. Mais non, faut qu'on laisse gagner les autres un petit peu. Mais moi, je suis pour le PSG de toute façon, donc.
Voilà le mec, ouais. Ça y est.
C'est
voilà.
Le mec qui a 20 clubs, c'est toujours sûr de gagner.
Ici, c'est. Qui a quoi?
20 clubs, t'es toujours sûr de gagner.
Qui a 20 clubs? C'est quoi mes 20 clubs?
Bah, c'est de l'humour.
Ok, merci RC Lens, Real Madrid, vas-y. Allez, on va le direct.
Oui.
Vas-y, ouais. C'est bon.
Lui, il a PSG, Arsenal, oh, putain, un peu quand même.
Voilà, c'est tout. Tu parles de 20 clubs, de quel 20 clubs?
Il est chaque fois avec moi, Julien.
Non, il te
dit. Mais non, tu me parles de 20 clubs, tu mens.
Non, mais c'est de l'humour parce que tu dis que t'es du PSG, donc.
Bon, en tout cas, on n'est pas prêt d'entendre ça dans les prochaines mois, voire années, écoutez. Voilà, c'était Julien Laurence.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est de bonne guerre, je reconnais. Johan Crochet a très bien fait le.
Mais c'est dingue, tu remarques comme ça fait plaisir à tout le monde. C'est fou comme ton championnat attise. Oui. Je sais pas si c'est la jalousie, mais en tout cas.
C'est les riches, c'est les pauvres contre les riches, c'est normal.
C'est pas que ça.
Depuis Romain Desbois, c'est
aussi un système.
C'est pas que ça.
Un schéma, une organisation. Bref.
C'est ce repas que j'ai pas offert à tout le monde et depuis vous êtes.
Non,
peu,
même pas, tu vois, j'y pense pas.
Au moins, cette année, là, t'es sûr de pas devoir.
La gelée de gros.
C'est vrai, tu as raison. Mais si c'est une finale 100% allemande, Polo, il doit inviter tout le monde au resto.
Bah, Polo, invité. Polo qui va au resto, ça fait longtemps, je pense qu'il n'est pas au resto, Polo. Si
c'est vrai que ça fait pas mal de temps.
Alors, tu vois, c'est l'occasion, un Dortmund-Bayern en finale, à Wembley en plus.
Une bonne choucroute, là, Polo.
Je viens chez moi.
Je l'Euro 2024 à domicile, honnêtement.
C'est peut-être l'été de Polo, attention.
Ah ouais,
c'est peut-être l'été de
ça
Polo.
Ça peut.
Attention. Mais non, comme chaque année, c'est les Anglais qui vont la gagner, l'Euro.
Bon, ça démarre fort, les amis. Bon, 15 secondes chacune. Drôle de dame, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Fred, je commence avec toi.
Ah ben, on va parler de... Je voulais vous parler du classico sportivement parlant. Ben non, on peut pas. Il y a le problème de la goal line technologie. Mais... Tu sais qu'il y a... bah, y a cette image fantastique. Hier, c'est Gundogan qui vient d'arriver en Espagne et qui va vers l'arbitre, dit look at the watch, regarde la montre, voir si la balle est entrée. Non, non, il y a pas de watch en Espagne, on n'a pas la goal line. Donc ça fait un bordel pas possible. Et on va se poser la question de savoir si Laporta a raison de peut-être demander à ce que soit rejoué le match. Il attend de voir les images et si ses experts à lui, on en discutera, disent qu'il n'y a pas de que le but qu'il y avait but de Lamine Yamal, et ben il demande à rejouer le match. Donc c'est, on ne parle que de ça. On parlera de Gérone. Ça faisait un moment qu'on n'a pas parlé. Ça y est, Gérone sera au minimum en Ligue Europa la saison prochaine et ça fait plaisir.
On en parlera avec toi. Et Johan, tes trois points.
On va évoquer un petit peu le renouveau de l'Italie en Coupe d'Europe avec cette fameuse cinquième place désormais qualificative pour la Ligue des Champions. On évoquera aussi le Roma-Bologne qui est en cours, qui est un vrai bon match de foot avec pas mal de choses à raconter. Et puis il y a le derby de Milan qui va commencer dans pas longtemps avec peut-être le titre pour les Nerazzurri.
Polo.
On va ouvrir le dossier spéculatif du futur coach du Bayern Munich, donc j'attends aussi vos idées. Et puis on va s'intéresser évidemment à Leverkusen, les Unschlagbar, les invincibles, mais en Allemagne on dit plutôt Unberechenbar, les imprévisibles, tellement il y a de joueurs différents qui peuvent marquer. Ils ont encore marqué ce week-end lors des arrêts de jeu contre le Borussia Dortmund. On va revenir un petit peu, je pense, sur le jeudi, ce qui s'est passé, puis il y a quand même une première mi-temps qui est pas terrible. Voilà, et puis il y a une minute qui est un peu surprenante, je crois.
Et puis Julien,
on va revenir sur le incroyable Coventry Manchester United en demi-finale de la Coupe d'Angleterre hier à Wembley. On va parler aussi de Liverpool et d'Arsenal qui gagnent dans la course au titre et mettent un petit peu la pression sur City. Et puis on aura une minute aussi très sympa. Je me rappelle plus trop ce que c'est la minute, mais
elle est très sympa, je sais, je le confirme. Pas de problème.
Avec une super musique.
Voilà, tout à fait. Et puis à partir de 22h, il y aura la drôle dame alsacienne qui assure un bon maintien en Ligue 1. Pas encore fait mathématiquement, mais il n'y a plus de frayeur à voir. Gilbert Rebois est avec nous. Bonsoir Gilbert.
Ça me permet de saluer mon frérot de Chelsea.
C'est ça, ouais, la famille.
Moi je soutiens les frérots. Je ne suis pas comme vous tous à lâcher Julien en race campagne.
Merci.
Comme s'il ne comptait
Gilbert,
plus.
Merci, chef.
Voilà, nous on est frérots.
C'est vrai. Et d'ailleurs, Chelsea cherche un peu des investisseurs, donc j'ai proposé ton nom. Parce que bon.
Ah ouais, vu le niveau d'investissement, je crois que.
Oh, sois pas modeste, Gilbert.
Ton salaire.
On va réfléchir.
C'est le patron, quand même.
T'envoies ton 13e mois et c'est bon. Hein, tu peux...
Bon, sinon, la Ligue 1 à 22h, évidemment. Daniel est de retour après un long week-end. Il n'a rien dit sur le PSG depuis 4 jours, donc il est chaud bouillant, là. Ce sera tout à l'heure. Évidemment, je dévoile pas tout. Je maintiens le suspense. Florent Gautreau, lui, veut donner sa chance au sagisme à Lyon. Lui, il dit, le panache, hier, ça n'a pas marché, mais il faut qu'il continue. Et puis, Brest va-t-il tout perdre? Parce que les Brestois sont dans une mauvaise passe, ils râlent après les arbitres, mais il n'y a peut-être pas que ça. On en parlera également ensemble. La course à l'Europe, bien sûr, Rennes qui revient. On parlera également de Monaco. Il y a un Monaco-Lille qui arrive dans 48 heures, qui est chaud. Peut-être le match sur la deuxième place. On en parlera dans l'after. Et puis, on vous piquera Johan Crochet tout à l'heure, parce qu'il y a un match important ce soir en Italie, à Milan. Donc, on fera le résumé avec lui tout à l'heure. Voilà le programme.
Voilà le programme de l'after avec Flo, Daniel et Gilbert, comme tous les soirs.
Sinon, le frérot, il peut reprendre Emega, qui a touché 2 ballons en 30 minutes. Record du nombre de ballons touchés en Ligue 1 depuis que les statistiques existent. C'était ce week-end, c'est magnifique. 2 ballons, le gars, dont un en jeu.
Voilà, Gilbert, l'after à partir de 22h. Vous nous appelez au 32-16, vous le savez, 21h45, hein, votre quart d'heure, celui des auditeurs, des drôles dames, vos questions à Polo, Julien, Fred et Johan. N'hésitez pas à appeler dès maintenant. Max, vous êtes en standard. Je vous rappelle également vos questions, vous pouvez les envoyer sur la chaîne YouTube de l'after, sur le chat de la chaîne YouTube de l'after, @after-foot, pour vous abonner. Vous êtes 150 000 désormais abonnés, c'est un succès. Puis tiens, puisqu'on parle de match en direct, hein, en Italie, Johan t'en parlera tout à l'heure, mais Bologne mène 3-1. Encore une fois, masterclass de Thiago Motta. 3-1 sur la pelouse de la Roma ce soir. On en parlera tout à l'heure avec toi. C'est important pour consolider une place dans le top 4 et donc la qualification pour la prochaine phase de poule de Ligue des Champions. D'abord l'Espagne. Alors Fredo, une énième polémique dans ton championnat cette saison qui n'en a pas manqué.
Ah bah ça, et c'est pas fini. Hein.
Real-Barça. Victoire 3-2 du Real qui a tué le suspense. On en parlera tout à l'heure quand on titre en Liga. Deux questions qui font grand bruit chez toi. Le ballon de la déviation sur le corner de Yamin Lamal avait-il intégralement franchi la ligne du but madrilène? Et pourquoi la Liga n'est-elle pas pourvue de la goal line technologie comme ses voisins européens? On ajoute une troisième. Est-ce que Revertebas est radin? D'abord la première question, mon cher Fredo. Où est la vérité? 1000 versions aujourd'hui sur les réseaux et pas dans les médias espagnols, sur les sites Marca, As et compagnie. Oui ou non, ce soir, à 20h10, ce ballon a-t-il franchi intégralement la ligne?
Le sentiment que j'ai eu hier en voyant la position du gardien, en voyant le but, c'est qu'il y avait but. C'est le sentiment que j'ai eu en direct. Je me suis dit, oh là là, de toute façon...
Ça fait deux, hein, je précise à ce moment-là.
Oui, oui, c'est voilà. Et le Real était un peu malmené. Enfin, c'était compliqué. Donc, vraiment, c'est. Après, aujourd'hui, la Liga a publié l'intégralité de la conversation du VAR et de l'arbitre. En plus, c'est, on entend extrêmement bien. Donc, pour ceux qui aiment, qui comprennent espagnol, vous allez sur le compte Twitter de la Liga, il y a tout. Et en fait, ils prennent leur temps. Vraiment. Et l'arbitre dit, c'est trop important, on prend son temps, on regarde, etc. Il regarde plein d'images. Sauf qu'il y a la position du corps de Lunin fait en fait qu'on a le plan qui pourrait être très utile, on l'a pas parce qu'on voit le dos de Lunin. Donc, la conclusion de l'arbitre VAR, dans les mots qu'il prononce, ce qu'il dit à l'arbitre central, dit, il n'y a pas de preuve que le ballon soit entré. Donc, corner. Tu recommences avec un corner. Il n'y a pas de preuve. Voilà. Alors, dans la logique, la décision, elle est bonne. Puisque s'il n'y a pas de preuve s'il n'y a pas l'image que le ballon est clair, que le ballon est entré, il est normal que l'arbitre du VAR dise qu'il n'y a pas but. Mais ça pose un vrai problème. Comment un championnat aussi important que le championnat espagnol peut faire l'économie de 3,5 millions d'euros ou 4 millions d'euros, enfin c'est suivant les versions. Et moi je reprendrai la déclaration de Ter Stegen qui, dans un espagnol brillant, a dit il y a tellement d'argent qui circule dans le football et on n'a pas l'argent pour un truc aussi important, c'est une honte. Il a raison, Ter Stegen.
Pourquoi Tebas n'a pas acheté cette technologie? Parce que bon, il a communiqué même pendant le match.
Ils se sont pépés.
Il a tweeté.
Notamment en citant la Ligue 1 où il y avait des erreurs parfois avec la Golden Technology. Donc en gros, il veut se
sans
justifier.
Sans commentaire, il écrit, voilà.
Justifier. Donc la question, bien sûr que c'est. Enfin, c'est
sur deux ailes, il veut pas lâcher. Bah, 3,5 millions
voilà, ça, voilà. Parce qu'il a pas voulu lâcher. On sait très bien que le football espagnol est près de ses sous, hein, que c'est très compliqué. Tebas, par contre, il était très content de pouvoir se faire augmenter. D'ailleurs, tous les clubs espagnols ont voté l'augmentation de Javier Tebas, dont le Barça. Il y en a qu'un qui a voté contre l'augmentation, il s'appelle le Real Madrid. Donc, le Real Madrid a beau jeu aujourd'hui, par ses relais dans les médias, dire, attendez, nous, c'est votre problème. Hein. Si le Barça a voulu que Tebas continue, Tebas qui ne voulait pas implanter la Goal Line Technology, et je l'évoquais lors de la présentation, la scène, pour moi, la pire scène, c'est de voir Gundogan qui arrive d'un championnat sérieux et qui dit à l'arbitre, il n'y a pas de problème, regarde ta montre, look at the watch, bah non, il n'y a pas. Et là, c'est là le ridicule du truc, en fait, c'est que Tebas, dans la défense qu'il y a, et aussi parce qu'il a des relais médiatiques, c'est de dire, mais de toute façon, à chaque fois, la VAR a pu résoudre ce genre de problème.
Eh ben non.
Eh ben surtout que c'est le pire, c'est que ça tombe sur le grand match de l'année, celui qui est le plus vu dans le monde. C'est, faut dire, c'est vraiment pas de bol. Parce que le match le plus regardé, c'est le Barça-Real, Real-Barça, et il faut que ça tombe là, le monde. Si ça avait été un Rétafé Cadix,
on n'en parlerait pas.
Si j'aurais fait ma minute là-dessus, on aurait rigolé, on aurait mis de la musique. Mais là, c'est ridicule pour la Liga. Donc, c'est impossible pour Tebas de justifier le fait de pas avoir voulu payer cette technologie. Certes, c'est cher, mais elle est quand même très. Et même si ça.
Même nous, la Liga, la payons. Mais bien sûr. Vous pouvez la payer quand même.
Non, mais même si ça doit servir une seule fois. Dans un match aussi important, franchement, c'est pas rien. Alors maintenant, on va peut-être parler des conséquences.
On va faire une pause et on revient dans un instant, voilà. Bien sûr. Et je veux l'avis des drôles d'âmes également, cette polémique. Est-ce qu'elle vous intéresse? Qu'est-ce qu'elle raconte également? Est-ce que vous comprenez ce choix de Tebas de ne pas recourir à toute technologie pour aider à la décision? Reste avec nous, c'est Génération After, spécial drôle d'âmes sur RMC. On revient dans quelques secondes avec Fred, Julien, Polo et Johan. Il est 20h14 sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamin.
Avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Armel et Johan Crochet, on est ensemble jusqu'à 22h. Hein. Vous nous appelez, n'oubliez pas ce rendez-vous, 21h45, vos appels au 32-16, vos questions aux 4 drôles de dames, elles sont là pour y répondre. N'hésitez pas à les poser également sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Toujours 3-1 pour Bologne sur le terrain de la Roma après 85 minutes de jeu. Johan nous tient au courant de l'évolution des scores en attendant surtout le Milan-Inter, 20h45, qui peut sacrer l'Inter, hein, championne d'Italie. On parlait du Real Barça, bien sûr, hein, qui fait beaucoup réagir, y compris en France. C'est la preuve que ce match
Il reste quand même important. Voilà. Ouais, ça fait plaisir.
Même s'il n'est pas encore, il n'est plus vraiment l'affiche la plus attendue de la saison. Ça se passe en Angleterre désormais. Je veux qu'on écoute Joan Laporta, patron du Barça. Tu l'as cité tout à l'heure. Écoutez-le. C'était aujourd'hui dans un média espagnol.
Queremos tener la seguridad sobre lo que pasó.
Nous voulons connaître la vérité sur ce qui s'est passé et nous demandons immédiatement au comité technique des arbitres et à la fédération la totalité des images et des audios concernant cette action. Si lors de l'analyse de ces documents, le club constate une erreur d'appréciation, nous irons plus loin et nous n'exclurons pas de demander à rejouer le match.
Pourquoi il fait cette sortie?
C'est ridicule, il est dans son droit.
Oui, mais il sait très bien que à aucun moment ce match sera rejoué.
Bien sûr, mais il a raison de faire.
C'est politique.
Mais c'est politique et sportif. C'est-à-dire que il est dans son droit. Enfin, un président d'un club qui s'estime floué par là, c'est pas une décision d'arbitre, pas un problème technique d'arbitrage. C'est un problème technique d'arbitrage. Il est dans son droit. Il a le droit de dire que d'avoir tous les éléments en main, de pouvoir faire analyser par des spécialistes avec les images qu'il a. Là,
enfin, oui, mais qu'on a. Dire ça à quelle fin? Alors, quel but?
But, il sait très bien que le match ne sera jamais rejoué, parce que ça, ce serait un précédent terrible. Il menace d'aller devant la justice, etc. Il est dans son droit. Il est dans son droit. Il est dans son rôle. Il est aussi dans son rôle de président. C'est quand même une saison terrible pour le Barça, une saison blanche. C'est une saison, c'est la confirmation hier qu'il y a une saison blanche. Si le Barça avait gagné, il y avait 5 points, il y avait un petit espoir. Il détourne aussi l'attention. Mais c'est normal. Le Real, le Barça, ce sont des clubs politiques. Le Real ferait la même chose. Donc, on est dans une volonté aussi de détourner l'attention sur l'échec sportif du Barça cette saison, avec une polémique qui marche toujours auprès des socios, qui est l'arbitrage, le Real, etc. Parce que manque de bol, il fallait que ça soit contre le Real. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait pas mal de gens qui disaient, oui, le Real, ils ont dépensé 1 milliard dans leur stade, ils n'ont pas fait installer la Golight Technology. Oui, mais c'est pas le Real qui l'installe, c'est la Liga. Ça appartient à la Liga. Donc, et voilà, on se retrouve dans une situation où Laporta, j'insiste, il fait ce qu'il doit faire, ouais, en tant que président du Barça, mais ce serait impossible. Enfin, je vois pas qu'on peut rejouer ce match.
Inimaginable. Je vous invite à drôle d'âme également là-dessus. Votre rapport déjà à la Golden Technology, parce que pour moi, ça reste, voilà, on est dans le domaine de la VAR également. C'est l'assistance technologique que beaucoup repoussent, y compris ici dans l'after. Est-ce que vous trouvez ça pas presque romantique qu'il y ait une polémique sur un ballon dont on ne sait pas s'il a franchi intégralement la ligne ou pas?
Non, honnêtement, moi, ce qui me fait surtout un peu rigoler, c'est que Tebas, pendant le match, vous explique qu'il y avait des erreurs avec la goal line, donc il l'a pas installé. Mais par contre, la VAR, il y a des problèmes toutes les semaines, mais il était bien content de l'installer. Donc, il faudrait un petit peu savoir. Des problèmes, il y en a aussi beaucoup avec la VAR, et la VAR ne résout pas tout. Donc, non, c'est absolument pas romantique. Moi, dans l'after, hein, j'ai déjà exprimé plusieurs fois que je suis contre la VAR, mais j'étais plutôt ok avec la goal line technology à partir du moment où elle était fonctionnelle et que ça prenait pas 10 plombes de vérifier si un ballon avait franchi la ligne, et que ça c'est blanc ou noir, le ballon il a franchi ou il a pas franchi, donc c'est pas un problème d'interprétation pour moi. Donc j'étais plutôt pour, et vraiment je trouve ça absolument ridicule que la Liga, qui est assez moderne sur pas mal de points, et décider d'économiser, oui, ces pauvres 3,5 millions d'euros et ne pas mettre la VAR.
Bon.
La goal line.
Ça n'arriverait pas chez toi, mon cher Polo, au bout de Siga, ça, évidemment.
Non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que si la goal line technologie existait en 1966, l'Angleterre ne serait pas devenue championne du monde. Si la technologie actuelle existait lors du match Séville 82, on n'aurait jamais eu cette formidable pièce de théâtre, le match France-RFA. Donc je suis toujours un petit peu... je ne suis pas contre la technologie, mais je trouve quand même que... regardez le nombre de livres qui sont parus, par exemple, sur Séville 82, en Allemagne, en France, etc. Ou combien d'articles ont été écrits en Angleterre ou en Allemagne sur la fameuse finale de 1966. Mais je veux dire, si à l'époque il y avait la Golden Technology, toute la croissance économique liée justement à tous ces articles dans la presse, etc., tous les trucs vendus, tout ce que tu veux, etc., n'existerait plus. On serait presque en récession économique.
Il n'y aurait pas le même récit, la même narration du foot qu'aujourd'hui. C'est valable pour la main de Maradona sur la VAR, par exemple.
Exactement. Voilà.
Et moi, j'aime bien la logique au foot, et on l'a tous vécu. Tous nos auditeurs qui ont joué au foot, on l'a vécu, même avec nos copains quand on joue au foot, on a le sentiment que le ballon est rentré, et les mecs disaient, ben non, elle est pas rentrée ici, elle est rentrée, vous savez, des fois, on sait pas trop, et moi, j'aime bien le sentiment qu'elle est rentrée ou le sentiment qu'elle n'est pas rentrée. Donc, la technologie, si tu veux, au-delà du fait que, et là, je suis tout à fait d'accord avec Ter Stegen, le fait d'avoir aujourd'hui des championnats qui font plusieurs milliards d'euros chaque année, on n'arrive pas à trouver 3,5 millions, alors que on sait très bien comment ça fonctionne, il suffit de prélever une partie des droits télé redistribués chaque année et on peut le financer comme ça. C'est comme ça que...
Ouais, mais les droits télé sont pas terribles, donc...
Bah, oui, mais 3 millions et demi, c'est dérisoire par rapport
à... C'est 1 milliard de droits télé, 3 millions et demi, c'est rien. On est d'accord, non, on est d'accord.
Donc, mais je trouve aussi que chercher cette vérité absolue, Alors ça pourrait être ça aurait pu être dramatique, hein, ça pourrait arriver pour un titre de championnat, etc. Mais il y a le côté, tu revisites l'histoire et tu revisites l'histoire qui est pas forcément très intéressante en cherchant justement cette vérité absolue. Bon,
voilà. Il y a tellement de, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement d'argent investi aujourd'hui dans le football qu'on veut réduire le risque d'erreur par rapport aux investissements qui sont faits. Et donc le côté romantique, il est de moins en moins présent. L'erreur n'est plus belle.
Bon, et puis je vois mal Tebas revenir sa décision dans les prochains mois, prochaines années. Trop d'orgueil. C'est,
sincèrement, moi je prends un pari qu'il le fera l'année prochaine, parce que comme là, entre guillemets, ça a pu aider le Real, il y aura une grosse pression. Mmh. Et donc que l'année prochaine, il y aura sûrement la Goal Line Technology.
C'est un peu la risée de l'Europe, la Liga, et que
ça fait tâche.
Peut-être falloir remédier un peu à ça, ouais, pour pas revivre ce genre de moments négatifs. Ouais.
Petite polémique en Angleterre également, Julien. Ça concerne pas vraiment la VAR, en tout cas le choix de l'arbitre assistant VAR que conteste Nottingham. Le contexte, c'est Everton qui a battu Nottingham Forest 2-0 dans un match très important dans la course au maintien, un match à 6 points, comme on les appelle communément. Mais Julien, Forest jette le doute sur l'arbitre assistant vidéo. Pourquoi ?
Ouais, c'est ça. Alors, on a vu des erreurs d'arbitrage dans ce match-là, comme partout chez nous, dans tous nos championnats, tout au cours de la saison. On en a souvent parlé. Mais là, c'est vrai qu'il y a 3 pénaltys, 2 notamment assez flagrants, pour Nottingham Forest, qui n'ont pas été donnés. Bon, jusque-là, ça arrive. La VAR n'a pas demandé, par exemple, à l'arbitre, Anthony Taylor, qui est un des meilleurs arbitres qu'on a en première ligue, qui est un arbitre de niveau Ligue des Champions, de niveau Euro, Coupe du Monde, etc. L'arbitre de la VAR n'a pas demandé à ce qu'il vienne voir l'écran, par exemple, ce genre de choses-là. Bon, très bien. Le match se termine. Forest est vraiment mécontent, ce que tu peux comprendre. Et puis une ou deux heures plus tard, sur le site, sur le compte donc X ou Twitter de Forest, ce tweet qui tombe, mais ce tweet surréaliste où dedans ils expliquent que voilà, il y a trois pénaltys oubliés pour Forest, qui est bon, deux sur le troisième, je suis pas sûr, mais on va dire deux voire trois, et ils commencent à expliquer que le VAR pour ce match-là, Stuart Atwell, qui est un autre arbitre anglais, est un supporter de Luton qui est aussi à la lutte pour éviter la relégation comme Forest, comme Everton, et que avant la rencontre, Nottingham Forest avait alerté le syndicat des arbitres, enfin le PGMOL, qui est l'organisme des arbitres, pour leur dire de changer l'arbitre de la VAR, puisqu'il pouvait pas avoir un arbitre qui supportait Luton, qui était en charge de la VAR. Le PGMOL n'avait rien fait, n'avait pas changé l'arbitre. Et donc voilà, aujourd'hui, on en voit, en gros, ils accusent l'arbitre de VAR, donc, d'avoir triché, d'avoir volontairement pas donné les pénaltys à Forest, qui sont dans la lutte pour le maintien avec Luton. Vous imaginez même pas la polémique que ça a créé ici. C'est incroyable.
Ah bon?
Mais vraiment incroyable. Incroyable. Parce qu'en plus tard dans la journée, Mark Clattenburg, l'ancien arbitre, pas très bon d'ailleurs, mais l'ancien arbitre professionnel anglais, qui maintenant travaille pour Nottingham Forest, qui est devenu un conseiller arbitre, conseiller règles, loi du jeu, règles, tout ça, un truc complètement bidon.
On en a des salons comme ça.
Ouais, ben de lui-même, Fredo, lui, il s'est dit, vous savez quoi, je vais même écrire un article dans le Daily Mail, pour répéter en fait tout ce que j'ai mis sur Twitter, sur le compte du club, pour dire que c'était n'importe quoi, qu'on avait demandé à ce que l'arbitre de la VAR change, parce qu'on peut pas avoir un supporter de Luton qui est en charge de la VAR dans un match pareil, etc., etc. C'est hallucinant. Je sais pas jusqu'où ça va aller. C'est pas la première fois que Forest se plaint de cette façon-là, mais là on a atteint un degré de ridicule, et je comprends très bien qu'ils se soient révoltés, parce qu'effectivement ils auraient dû avoir au moins deux pénaltys, mais il faut pas le faire de cette façon-là, quoi. Là c'est ridicule.
Bon, voilà, l'affaire. Je sais pas s'il y aura une suite, hein. Y a des démarches ou pas lancées par Nottingham?
Oui, bien sûr, mais alors je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire en fait, parce que quand c'est un entraîneur ou un joueur, il y a des sanctions, tu peux avoir une sanction financière par exemple, tu peux avoir des choses. Mais là, Mark Clattenburg, enfin, je vois pas trop ce qu'il peut faire, mais c'est juste, on parlait tout à l'heure du ridicule un petit peu parfois pour la Liga sur la Goal Line Technology, là. Mais là, le ridicule pour le championnat anglais, pour Nottingham Forest, c'est hallucinant.
Mais Clattenburg, c'était l'international, il était vachement connu.
Ouais, rappelle-toi, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, mais en fait, il s'aime trop, et là.
on est beaucoup dans ce cas comme ça, tu sais.
Ouais, vous êtes quelques-uns.
Non, mais.
T'en fais partie, Fred, tu penses?
Non, moi, je m'aime beaucoup.
Tu t'aimes beaucoup?
Ouais.
Ou c'est pas une façon de.
Non, moi, je m'aime vraiment beaucoup.
Tu t'aimes beaucoup?
Ah, bah, il y a suffisamment de gens.
Mais qu'est-ce que tu préfères chez toi?
Ma voix.
Ta voix, d'accord. C'est intéressant, c'est net, hein. Est-ce que vous aimez les drôles d'âmes ou pas? Julien, tu t'aimes? Non, toi, on t'aime beaucoup, j'ai l'impression.
Oui, beaucoup, moi, donc je prends beaucoup.
Allez, c'est l'heure de la première lutte de la soirée. Elle est allemande, on envoie la musique, Polo.
Lächerlich, WhatsApp, Gruppenchat ohne uns. Lächerlich, schau mal wer zuletzt lacht und wem's bald vergeht. Und die Krise kotzen leer und dann rennt dann der Schnee. Echer ganzes Leben ist ein schlechtes Kabarett.
Lächerlich, ridicule, apparemment c'est le mot à la mode ce soir. Oui.
Tu vois mon cher Polo, ça, tu vois, je prends un stylo et je vais noter la référence parce que je découvre et je vais réécouter.
Kreml et Samouraï. La chanson est une parodie, beaucoup très critique. Par exemple, il dit une formation radicale de vegan, c'est lächerlich, ridicule, pardon, je le disais en allemand. Des mecs de la campagne qui écoutent du rap ou qui se mettent dans le ghetto rap, c'est ridicule, etc. etc. Donc c'est un peu une façon très critique. Peut-être une chanson un peu conservatrice d'ailleurs, mais en tout cas, c'est une chanson autrichienne. Donc je te l'enverrai si tu veux.
Bien
vous,
sûr.
Vous l'avez vu.
Oui, on a le lien, c'est bon.
Oui, pourquoi est-ce que j'ai parlé de ridicule? C'est parce que Cologne, donc club fondateur de la Bundesliga et très en avance à l'époque et qui avait gagné le premier titre en Bundesliga, risque de redescendre à l'étage inférieur pour la quatrième fois lors de ces 20 dernières années. C'est le match à 6 points, comme on dit, qu'il ne fallait pas perdre à domicile contre Darmstadt, ils ont trouvé le moyen de le perdre. Et puis, ce week-end était un peu spécial parce qu'on a retrouvé Hambourg qui finalement devrait passer aussi une 7e année en Bundesliga. Schalke et le Hertha Berlin, donc des gros clubs allemands, ne remonteront pas l'année prochaine et je passe sur Hanovre et Nuremberg et tout ça. Et en fait, à chaque fois, j'analyse ça un petit peu et je me demande si ces clubs-là sont des victimes ou sont un peu coupables de leur situation. Et en fait, quand on analyse la densité de la Bundesliga, la réponse est toujours un petit peu complexe parce que ce sont des clubs évidemment à plus de 40 000, 50 000, 60 000. On pourrait rajouter Kaiserslautern aussi. Mais on oublie que certains stades ou certaines régions comme Nuremberg, comme Kaiserslautern ne sont pas forcément très riches. Donc dans le modèle allemand, c'est un peu délicat, comme l'ex-Allemagne de l'Est, mais que des clubs comme Cologne, qui ont trouvé aussi le moyen de se faire interdire pendant 2 ans de recrutement, parce qu'ils ont trouvé le moyen d'aller chercher il y a 2 ans, justement, un joueur mineur dans un ex-pays de l'Est, ils se retrouvent aussi dans une situation où on ne peut pas restructurer l'effectif, on ne peut pas l'améliorer, etc. Donc, si tu veux, pourquoi j'ai demandé Cologne, c'est que Cologne est un club mythique en Allemagne, évidemment, qui a malheureusement pas gagné de Coupe d'Europe, mais tu te redis que c'est un petit peu lächerlich, ridicule, un petit peu les situations de ces clubs-là. Lorsque tu l'analyses dans le détail, on a le droit dans le football de bien travailler.
Voilà, qui peuvent être rejoints au choix par le Borussia Mönchengladbach ou Wolfsburg. Attention, ça peut gonfler encore les rangs de la deuxième division allemande. Voilà.
Tout à fait.
Voilà pour la minute de Polo, à venir celle de Fred, Julien et Johan. Bien sûr, 3-1. Mon cher Johan, victoire, on en parlera tout à l'heure, de Bologne. Gros coup de l'équipe de Thiago Motta dans la course à la qualif pour la Ligue des Champions. 3-1 sur le terrain de la Roma. Reste avec nous, les drôles dames, Génération After sur RMC, 20h30. On revient dans quelques secondes. A tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Julien Laurence, Fred Hermel, Paulo Breitner et Johan Crochet. Vous écoutez RMC, vous écoutez les drôles de dames, comme tous les lundis soirs, on est ensemble jusqu'à 22h, jusqu'à la fin de la saison. Bien sûr, on lancera l'Euro également. Oui, pour une fois, les 4 drôles de dames seront représentés. Ça fait du bien. Presque pour une fois. Bon, oui. Quelques commentaires sur le chat de l'After. Les amis, Gabriel nous dit appeler un médecin, Polo a choisi un rap. Oui, mon cher Gabriel, mais un rap un peu conservateur quand même, voire un peu moqueur. Et puis Cyril nous dit surtout, avez-vous vu que Julien apparaît dans la saison 2 de Wrexham? Bien certainement, j'en doute pas. Je l'ai pas vu, mais bon, il sera dans la 3, la 4, et ça sûrement dans House of Dragons saison 2 aussi, le préquel de Game of Thrones. N'hésitez pas, chaque plateforme a du Julien Laurence. Polo, on parle avec toi du FC Bayern. On l'a appris en fin de semaine, Julian Nagelsmann ne reviendra pas au Bayern après l'Euro. Contrat avec la National Mannschaft étiré jusqu'au Mondial 2026. Alors qui pour succéder à Thomas Tuchel? C'est le grand flou, mon cher Polo.
Déjà, la première chose, c'est que ça a surpris beaucoup de personnes en Allemagne, même si ceux qui suivaient l'actualité de très près savaient que le fait que Rudi Völler, le directeur sportif, prolonge, faisait que ça devait bien s'entendre avec Nagelsmann et qu'il y avait des possibilités. Je précise qu'aujourd'hui, je vous ai souvent parlé du cas Nagelsmann, que j'étais intimement persuadé qu'il allait revenir au Bayern Munich pour une raison purement financière, et je n'ai à l'heure actuelle aucune information pour pour spécifier comment la fédération allemande va financer le nouveau salaire de Julian Nagelsmann, sauf à croire qu'il a fait un effort financier très très important. Donc je ferme le chapitre. Je précise que cette piste du retour de Nagelsmann était très importante, à tel point que c'était la priorité de Max Eberl, le directeur sportif, et de Christoph Freund, qui s'occupe plutôt de chercher des jeunes en Europe. Ça ne faisait pas l'unanimité au sein du board du Bayern, et là on se retrouve directement avec la structure du Bayern et les fameux Elephanten, les anciens, hein, ou Lyonnais et compagnie. Et d'ailleurs, Rummenigge s'est permis une petite sortie médiatique en faisant comprendre que ce n'était pas facile pour Max Eberl de trouver, je lui fais toute confiance, mais c'est pas facile pour lui de trouver un grand entraîneur, etc. En gros, ça s'appelle un sniper. Ça, c'est un grand classique du Bayern Munich. Entre temps, on a eu la rumeur, Zinedine Zidane, en provenance d'Espagne, au Bayern. Ça a été démenti par quasiment toute la presse allemande, déjà parce qu'il ne parle pas allemand, et Max Eberl, même s'il n'a pas complètement fermé la porte, semble dire qu'il n'a pas négocié avec lui, qu'il n'a pas parlé avec lui, et de toute façon, il ne sait même pas s'il parle anglais. Je pense qu'il faut lire lire entre les lignes, en fait, de tout ce qu'il dit.
Après, il y a le fantasme de Ribéry à ses côtés, qui lui qui pourrait servir d'intermédiaire et le traducteur. Voilà,
il semblerait le fait que quand même qu'il y ait une colonie française dans le vestiaire du Bayern fasse que le nom de Zidane intéresse différentes personnes. Mais si tu veux, il semblerait pas que ce soit la priorité des priorités. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est que les pistes, les unes après les autres, ça menuise. Et on oublie un critère, c'est que est-ce que l'on recherche un coach pour le long terme ou est-ce qu'on cherche un coach qui serait là que pour un an? Et c'est pour ça que Ralf Rangnick est toujours cité. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup parlé de Xabi Alonso, cette saison pour 2024, mais aussi la priorité des priorités, mais aussi peut-être en 2025. Mais il y en a un autre qui est sur le marché dans un an. C'est qui?
Dans un an? Qui est sur le marché?
C'est Klopp, ouais, ouais. Bah, bien sûr. Klopp, c'est évidemment Jürgen Klopp. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la véritable stratégie du Bayern, en dehors du fait qu'apparemment, différents coachs qui ont été appelés pour savoir s'ils étaient intéressés, Ralf Rangnick, ça lui plaît moyennement de dire que qu'on lui fasse comprendre que vous n'êtes pas ma priorité numéro un, vous êtes derrière Xabi Alonso, vous êtes derrière Julian Nagelsmann, mais si vous pouvez venir faire une pige pendant un an, c'est intéressant. Quand tu connais le caractère de Ralf Rangnick, les murs tremblent encore dans certains vestiaires de Bundesliga, c'est toujours un petit peu spécial, ces choses-là. Mais tu ne sais pas trop, en fait, ce que veut le Bayern Munich. Est-ce qu'ils veulent un coach de très très haut niveau? Est-ce qu'ils veulent un coach pour la galerie, y compris le marketing? Et là, Zinedine Zidane serait évidemment une formidable opération marketing, comme il y a eu avec Pep Guardiola à l'époque. On ne parle pas de capacité du coach, est-ce que c'est un théoricien, un praticien, etc. On voit le palmarès des coachs, mais si tu veux, on ne sait pas trop ce qu'ils cherchent, en fait, le Bayern Munich. Et on a de plus en plus le sentiment que plus ça avance, plus ça va avoir des problèmes avec le vestiaire et les joueurs qui sont en prolongation de contrat parce qu'ils savent toujours pas avec qui ils vont travailler l'année prochaine. Thomas Tuchel lui-même a fermé la porte au fait qu'il pourrait y avoir une nouvelle renégociation pour continuer l'année prochaine. Mais Mario Basler, par exemple, là, on parle encore de ces anciens grands champions qui parlent à tort et à travers, disent mais il faut absolument que Thomas Tuchel reste au Bayern Munich.
Imagine Polo s'il gagne avec des champions. Et que porté par cet élan-là, Thomas Tuchel, moi je veux rester.
C'est ce que tu dis est extraordinaire parce qu'en fait, depuis, il semblerait. Et là, il y a eu un papier, un édito assez extraordinaire, succulent, parce qu'il est cynique au possible, sur comment c'est fragile aujourd'hui les clubs, qu'ils soient allemands, italiens, anglais, espagnols, quand ce sont des grands clubs et que tu fais, entre guillemets, un petit peu n'importe quoi, où tu ne respectes plus la longévité des coachs, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, on a, en 20 mois, on va changer deux fois de coach.
Et t'as eu 4 coachs en 5 ans, je crois, au Bayern.
Exactement.
Aussi,
ouais. Donc, il y a tout ça. Et donc, on se dit, maintenant, finalement, on est un fusible quand on arrive au Bayern Munich. Et donc, l'image de marque du Bayern Munich devient un petit peu délicate. Et donc, on attend beaucoup de choses. Rappelons aussi que Oliver Kahn n'est plus là, que Salim Itzic n'est plus là, qu'il y a une nouvelle direction, ça prend du temps. Mais en fait, tu ne sais pas trop où veut aller le Bayern Munich. Et ce serait, j'ai envie de dire, extraordinaire que Nagelsmann gagne l'Euro 2024. Et ce serait encore plus extraordinaire que Thomas Tuchel gagne la Ligue des Champions 2024. Les mecs, ils étaient là pour le Bayern Munich, ils ne le sont plus aujourd'hui. Enfin, ils ne le sont plus.
Ça pose la question de qui décide aussi au Bayern. Qui décide, qui va choisir l'élu, le successeur de Thomas Tuchel?
C'est les éléphants de tête.
Parce que Rummenigge a mis un gros stop sur la piste Nagelsmann. Tu le dis, certains le voulaient. Son poids encore énorme dans l'administration.
Bien sûr. Mais Rummenigge, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il dit, moi je ne veux pas que Nagelsmann, je ne souhaitais pas trop que Nagelsmann revienne parce qu'il va être occupé par l'Euro et donc on ne peut pas préparer l'effectif 2024-2025. Et Rangnick, il n'est pas coach de l'Autriche.
Bien sûr.
En quoi c'est différent? Donc tout ça fait que tu ne sais pas. C'est pour ça qu'Hansi Flick traîne toujours dans le coin un petit peu. Mais Hansi Flick, apparemment, il n'a pas envie d'y rester un an. Tu vois, il veut pas juste revenir comme ça. Donc tout ça, c'est compliqué. Emery, De Zerbi,
oui,
apparemment.
Mais Emery a été interrogé, je viens là-dessus ce week-end. Hein. Ah oui. Il a botté en touche. Il a dit, moi, j'ai ma saison à terminer. Il a pas dit non. Il a pas repoussé, tu vois, avec virulence la question, quoi, non plus.
Non, mais je pense que tu peux pas trop non plus dire non au Bayern. Hein.
Oui, c'est ça. Tu penses qu'il dirait oui, toi, dans l'absolu? Il pourrait dire oui.
Non,
tu
parce que ce qu'il est en train de construire, c'est très bien. Et surtout, il a ramené, on l'avait déjà expliqué avec Fredo, il a ramené tous ses gars sûrs à lui, à Villa. Donc, Vidagani, Monchi, tout le monde est là. Et maintenant, s'il va au Bayern et qu'il se retrouve tout seul avec, tonton Uli et tous les autres, c'est pas la même histoire que là, d'avoir les mains libres et de faire ce qu'il veut, c'est sûr, hein. Donc,
mais. Je pense c'est la famille.
Oui, mais c'est quand même c'est un projet. Je pense qu'il a envie un jour. Il a envie un jour d'être dans un très grand club encore une fois, mais peut-être pas maintenant.
Bon, vas-y, Fred.
Sur Zidane, en fait, il y a eu zéro contact philosophiquement, parce que j'en avais déjà parlé avec Zizou. Le Bayern fait partie de ces clubs qui sont zidano-compatibles. Il y en a pas beaucoup, hein. Alors l'Angleterre, ça c'est sûr, il veut pas y aller parce que c'est pas un pays qui l'intéresse, c'est pas un championnat qui l'intéresse. Philosophiquement, c'est oui, le Bayern fait partie avec le PSG, avec bien sûr la Juve qui est vraiment son gros objectif. Hein, c'est un jour d'entraîner la Juve, ça c'est évident. Mais ce week-end, il y avait eu absolument aucun contact. Voilà, c'est-à-dire ce qui est sorti dans le Mundo Deportivo, journal espagnol et qui après un peu excité tout le monde. Zizou n'a reçu ni directement ni indirectement aucune. C'est même pas une question d'offre. Il y a eu absolument aucune approche de la part du Bayern. Donc, je ne dis pas qu'un jour ça va pas se faire. Mais là, quand la formation est sortie, je peux vous assurer que Zizou est au courant de rien.
Bon, le temps est long pour Zidane quand même. Hein. 3 ans.
Bah oui.
3 ans. Bon, c'est pas Laurent Blanc qui disparaît pendant 5 ans non plus. Palmarès, en contraire.
Mais il est plus que beaucoup de gens. Donc, il a déjà fait ce que personne n'a jamais fait. Mais moi,
ça va dépendre d'Allegri. Donc, l'avenir de Zidane va dépendre d'Allegri.
Oui, vraiment, parce la Juve, c'est vraiment sur notre maison, quoi.
Notre maison. Mais sauf que Johan, on a des avancées sur Allegri.
Comme je vous le dis depuis 6 mois, Zidane n'est pas la première option.
En plus, c'est terrible. Voilà. Bon, le chemin le plus connu du monde. La deuxième minute de la soirée, elle est anglaise. On envoie la musique, Polo.
Guardiola.
Je crois que c'était Mylène Farmer au début.
Non, c'est Guardiola. C'est la chanson que Guardiola mettait dans le bus l'année du Barça, l'année du sexe, les City. Je sais pas comment on dit en français.
Alors Polo sera pas content, hein, bien sûr, c'est Coldplay.
Mais oui, tellement commercial.
Comment c'est gentil.
Je sais, mon Polo, je sais. Alors c'est plus un clin d'œil qu'autre chose, hein, cette chanson. C'est pour Olivier Giroud, qui est mon gars sûr, vous savez.
Ah oui, c'est la
Donc c'est une des chansons préférées. Et je l'avais promis de la passer dans l'émission. Donc voilà, elle est là, elle est pour lui. La Vida Loca, Coldplay, bien sûr, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein, ça reste quand même un très grand groupe anglais, britannique. Parce que le week-end a été bon pour Liverpool et pour Arsenal. C'était pas forcément le cas des dernières rencontres. Tous les deux ont gagné, Arsenal à Wolverhampton. Ils ont fait le travail sans forcément être très flamboyants, mais au moins ils ont gagné 2-0 sans prendre de but. Liverpool à Fulham pareil, avec Darwin Núñez et Mo Salah sur le banc et Alexis Mac Allister aussi, avec une équipe donc renouvelée un peu par Klopp, plus d'énergie, un peu plus de jeunesse aussi. Ils sont allés gagner à Fulham, et puis ça met la pression sur Manchester City, qui a donc joué en Coupe d'Angleterre, donc pas en championnat, puisque Liverpool et Arsenal ont repris la tête maintenant, avec un point d'avance sur City, qui ne jouera que jeudi soir à Brighton, un match compliqué contre De Zerbi et ses joueurs. Mais donc voilà, c'était cette course au titre assez folle, hein, un petit peu la vie folle de la course au titre en Angleterre cette saison, qui a vécu un nouveau chapitre ce week-end.
Et demain soir, on a un Arsenal-Chelsea également important, mon cher Julien, qu'on suivra bien sûr.
Tout à fait, exactement, qu'on sera dans l'after, et je serai en studio d'ailleurs.
Et tu seras là physiquement, c'est un événement pour tous les fans de Julien Laurence. Voilà. Venez ici, devant les locaux d'RMC, BFM TV.
Parce qu'il est
en la dernière fois, on a eu
plus beau en vrai qu'en photo.
La dernière fois, on a mis une demi-heure à quitter le studio, c'était terrible. Dans le couloir et tout.
Il y a un système de sécurité particulier. Il arrive. C'est pour ça que tu peux pas venir très souvent.
Oui. Et en général, il annonce pas, tu vois.
Ben là,
il
oui, prend le risque. C'est pour ça. Là,
très voilà, bizarre. Très bizarre. Bon, mon cher Polo, Coldplay ou Ed Sheeran, s'il faut choisir. Ok.
Un niveau autre.
Non mais Coldplay c'est sympa, mais enfin c'est léger.
Non mais j'ai peut-être dansé sur Coldplay, mais je devais pas être à jeun.
Il faut pas attendre plus de ça que du Coldplay. Coldplay c'est agréable, c'est sympathique, voilà,
c'est gentil.
Voilà, c'est gentil.
Non mais vraiment en Espagne, cette chanson-là est très importante parce que c'est le symbole de ces titres.
Dans effectivement, t'as raison, je me rappelle maintenant que tu en parles, Fredo, je me rappelle effectivement.
Ouais. Guardiola adore Coldplay.
Polo?
Ouais.
Non, mais c'est un peu comme la politique avec C'est à vous sur France 5, c'est gentil, quoi. Tu vois, t'apprends plein de choses.
Bim! C'est à vous qui a rien demandé, qui prend une
place gratuite aussi.
C'est voilà. Pas mal. De Coldplay à C'est à vous sur France 5, j'aime beaucoup. C'est dans l'air, ça passe ou pas? Un peu plus? Non,
c'est dans l'air, c'est ça.
Non, mais tu parles de C'est à vous le quotidien, hein.
Non, c'est dans l'air, pardon.
C'est dans l'air.
Ah, c'est dans l'air, d'accord, ouais.
Allez, dans un instant, c'est une balle perdue, hein, toujours une par lundi soir de Polo. On revient pour évoquer les 5 places en Ligue des Champions. Comment le foot italien est-il revenu au top en Europe? En attendant l'Allemagne, peut-être, hein, qui peut faire 6 même. Reste avec nous, c'est l'After, c'est Génération After, Drôle de Dame. On est ensemble sur RMC, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Non mais j'ai peut-être dansé sur Coldplay, mais je devais pas être à jeun.
Il faut pas attendre. Bravo la réactivité de mon cher Paul Vecchio.
Oh là là,
super réalisateur.
Super.
Bon, évidemment, cet extrait sera inséré très prochainement dans les jingles Drôle de Dame, bien sûr. Les génériques Drôle de Dame de lundi soir. Le rendez-vous est pris, bien sûr.
Tout ce que vous pourrez dire pendant l'after pourra être utilisé contre vous.
Bon, ce qu'à l'info, c'est aussi que Polo a dansé.
Non, mais j'ai peut-être dansé. Ah oui, peut-être. J'ai dansé déjà.
T'as dansé déjà, mon cher Polo.
Bien voilà. Sûr.
Pas si vieux que ça. Mais les
3 années de danse de salon et tout ça, je pense avec Fred, on peut faire un concours.
T'as pas fait
danser avec les stars, lui et moi, tiens.
Oh putain, ce serait magnifique.
Non, moi je.
T'as pas fait que du pogo sur Rammstein dans ta jeunesse, mon cher Polo.
Mais non, déjà, dans ma jeunesse.
Je pense que Fred, c'est un bon danseur, en revanche.
Non.
Je pense que Fredo, c'est un bon danseur.
Non, Fredo, oui, t'as raison.
Non, mais je suis pas
Fredo, c'est danse de salon, je pense.
Non, mais
c'est danse de salon très appliquée.
Non, j'ai appris le vrai tango. Ah, j'ai dansé le vrai tango argentin, d'accord. Qui est techniquement extrêmement difficile, mais j'étais pas très bon. Je chante bien le tango, mais je le danse très mal.
Très bien. Tu veux pas chanter sur le tango, mais en revanche, tu le chanteras d'ici la fin de saison, mon cher Fred.
Allez, si le Real gagne la Ligue des Champions.
Ah oui.
Liber Tango, Astor Piazzolla.
Quelle réactivité.
Ça, c'est l'un des plus beaux tangos. Liber Tango, Astor Piazzolla.
Ah oui. Ouais, c'est connu, magnifique.
Peut-être avec
ça version. Toutes les musiques du monde.
Version.
Ah ouais.
Version du regretté Guy Marchand. Moi, je suis tango. Exactement. Tango. Extrêmement bien, bravo. Il y a eu de très belles adaptations du tango du tango Piazzolla en français, notamment le Étienne Rodagil pour Julien Clerc.
Ouais, l'auteur de Julien Clerc.
La balade pour un fou, la balada pour le loco. Et dans ce monde où tout le monde se croit debout, je suis le seul à me vanter de me traîner à tes genoux.
Magnifique.
Je me demande si aussi dans des adaptations de films, il n'y a pas des trucs comme ça. Je me demande si Docteur Petiot ou Monsieur Klein.
Si, au cinéma, elle a été reprise, évidemment, plusieurs fois, à plusieurs reprises. Bon. On danse pas le tango en Italie. En tout cas, on va danser peut-être en Ligue des Champions la saison prochaine. 5 places en C1 pour le football italien. Bravissimo, la Serie A. Tu nous parleras la saison prochaine de 5 clubs, mon cher Johan, en phase de poule de la nouvelle Ligue des Champions. Ça veut dire 8 matchs par club. Ça veut dire 40 matchs avec un club italien en Ligue des Champions la saison prochaine. Tu vas avoir du boulot de plus en plus sur RMC, mon cher Johan. Les multiplex. Bon, si le championnat s'arrête aujourd'hui, et je précise, sera l'Inter, le Milan, la Juve, Bologne et la Roma. Alors j'y 5 parce que l'Italie est la première nation au ranking UEFA cette saison, de la saison, oui. Et est assurée de terminer parmi les deux premières nations qui vont bénéficier de 2 places supplémentaires en Ligue des Champions. L'Allemagne est bien partie pour en avoir 5 aussi, voire 6, comme disait Polo, ce qui serait absolument historique.
Bon, voire ridicule, voire les Shirley.
Oui, peut-être. Totalement. Oui.
Tout à fait. 6, ce serait bon, bref.
L'Italie peut aussi avoir 6, parce que c'est le jeu de qui va finir 5e avec la 5e place, et s'il est déjà, s'il gagne l'Europa League.
Et oui, en Europa exemple, League, bien sûr.
En Italie, si la Roma ou l'Atalanta gagnent l'Europa League et qu'ils sont 5e, bah, la 5e place deviendrait 6e place qualificative pour la Ligue des Champions.
Alors, comment l'Italie, ce championnat moribond pendant quelques années, qui va mieux quand même depuis plusieurs saisons, arrive, mon cher Johan, à se redresser de manière si spectaculaire?
Bon, déjà, il faut regarder un petit peu comment ont été pris ces points. Et avant même de regarder comment ils ont été pris, il faut faire quelques rappels sur d'où vient l'Italie, parce que c'est important. Hein. Aujourd'hui, c'est cool pour l'ego de nos chers dirigeants italiens de voir 5 clubs qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, mais Il faut regarder d'où ils viennent, et d'ailleurs la Ligue n'a pas forcément aidé, entre parenthèses. Ils ont réussi quand même, première mesure prise après les 5 places obtenues, compliquer le calendrier de la Roma à la veille de la demi-finale contre le Bayer Leverkusen, donc encore des génies à la tête du football italien, mais ça on a un petit peu l'habitude depuis maintenant très très longtemps. En fait, depuis 2020, l'Italie a repris beaucoup de points aux autres nations parce qu'elle est en capacité d'aller loin dans les compétitions, et surtout, c'est le premier point, quand on regarde la typologie des points pris, c'est en C3 et en C4. Alors l'année dernière, la Ligue des Champions a été assez fructueuse puisqu'il y avait 3 clubs italiens en quart de finale, 2 en demi-finale, 1 en finale, donc ça a ramené beaucoup de points. Mais si on prend les 5 saisons, comme le ranking UEFA, le classement UEFA est qualifié, bah finalement il y a beaucoup de points qui dérivent de cette C3 et de cette C4. Je donne quelques exemples. La finale de la C3 de l'Inter en 2020, la demi-finale de la Roma en Europa League en 2021, la finale de la Conference League et victoire finale de la Roma en 2022, finale de la Roma en Europa League, finale de la Fiorentina en Conference League en 2023, plus demi-finale de la Juve encore en Europa League la saison passée, et cette saison donc demi-finale C3, C4 de la Roma, de la Atalanta, de la Fiorentina. Donc ça fait quand même 4 finales de C3 et C4 plus 5 demi-finales de C3 et C4 sur les 5 dernières saisons. Et en fait, peut-être que certains clubs italiens qui ne sont pas en capacité de gagner cette Ligue des Champions, sauf saison extraordinaire, miracle, tirage au sort, tout ce que vous voulez, parce que même quand on prend le Napoli qui était si fort en Serie A, bah, l'année dernière ils se sont arrêtés en quart de finale. Quand vous prenez la Roma de Di Francesco qui fait demi-finale contre Liverpool, bah, elle ne fait que demi-finale de Ligue des Champions. Bah, peut-être qu'il y a des clubs italiens comme les deux que je viens de citer, Naples, Roma, mais sans doute aussi la Lazio, l'Atalanta, la Fiorentina, qui sont clairement calibrés pour ces C3 et C4. Parce que ce qui a beaucoup changé, et ça c'est la deuxième raison, c'est la tant décriée arrivée de beaucoup d'investisseurs étrangers pour diverses raisons. C'est un débat qui est très intéressant. Il y a des choses qui plaisent pas trop et des choses qui sont beaucoup plus intéressantes quand on évoque cette arrivée d'investisseurs étrangers, notamment américains. Bah, c'est que eux, quand on avait les propriétaires italiens qui ne juraient que par la Ligue des Champions, il y a que la Ligue des Champions, il y a que les honneurs de la Ligue des Champions qui nous intéressent, et puis les petites coupes d'Europe, on en a rien à faire parce qu'on gagne pas assez d'argent et nous on pense qu'à l'oseille ou à la gloire éternelle. Et bah les Américains, ils arrivent et ils disent bah écoutez, nous on aime bien gagner tout court, hein, on a un peu cette mentalité là, que ça soit, alors c'est mieux si c'est la Ligue des Champions, mais nous on a aussi envie de gagner l'Europa League, on a envie de gagner la Conference League. On estime que déjà c'est bien pour créer une culture de la gagne dans certaines équipes qui n'ont pas gagné depuis longtemps ou qui ne gagnent pas assez malgré leur qualité. On estime aussi que ça contribue quand même un peu au business, hein, parce que quand vous gagnez des compétitions importantes, vous avez plus de sponsors, vous avez une visibilité accrue. Donc le côté business est évidemment très très important pour ces investisseurs-là. Et puis c'est bon aussi pour la réputation à l'international, ce qui vous permet ensuite d'aller faire des tournées en Australie, d'aller faire des tournées dans les pays du Golfe, aux États-Unis, où vous voulez, et donc d'avoir des retombées très lucratives, là encore, pour le business. Donc ces propriétaires étrangers, ils ont clairement pas dit jouez tout sur le championnat et puis les petites coupes d'Europe, on en a rien à faire. Ils ont dit nous on veut gagner, et à la Roma on a dit on aimerait bien gagner une Conference League, on aimerait bien gagner une Europa League. La Fiorentina, c'est peut-être que deux demi-finales, et l'année dernière c'était même une finale de Conference League, c'est peut-être que la petite coupe d'Europe. Mais aujourd'hui, si on parle de la Fiorentina dans plein de pays, c'est pas parce que ils doivent être 8e de Serie A, c'est parce que ils sont en Coupe d'Europe et qu'ils font des matchs plutôt intéressants. Donc ça, c'est les deux raisons principales. Et ces raisons ont amené aujourd'hui l'Italie à vraiment se relever, parce que ils étaient très 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 mal en point dans les années 2010, ce qui a amené à un début d'année 2020 catastrophique. L'Italie était à 32 points au classement UEFA de l'Espagne. Aujourd'hui, les deux pays sont à égalité. Donc ils ont récupéré en 5 ans 32 points à l'Espagne, 7 points à l'Allemagne, 4 points à l'Angleterre. Et l'Italie débutera la saison prochaine à la deuxième place du classement UEFA, avec 4 points d'avance sur l'Espagne et 7 sur l'Allemagne. Donc c'est quand même assez intéressant. Moi, je note ce qui a été amélioré. Je vois que c'est extrêmement enthousiasmant, il n'y a pas de problème. Mais il ne faudra pas non plus se contenter de ça, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Les stades, les infrastructures, la mentalité aussi de certains clubs malgré tout, même s'il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Les jeunes, développer les académies, redévelopper les académies, il y a plein de choses. Et puis il faudra être attentif aussi la saison prochaine, messieurs, puisque il y a la fameuse nouvelle Ligue des Champions, et je ne sais pas si vous êtes un petit peu penchés sur ça, mais l'année prochaine, les points en Ligue des Champions, enfin les victoires en Ligue des Champions rapporteront plus de points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous gagnez en Conférence League, en Europa League, ou
mais ce sera moins récompensé que
c'est 2 points c'est pour tout le monde. Voilà, c'est 2 points pour tout le monde en cas de victoire. Bah l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de points mis en jeu dans la phase de groupe de la Ligue des Champions et une victoire apportera plus. Donc là, l'Italie, tous les points qu'ils ont fait, notamment avec la C3 et la C4, bah si l'année prochaine t'es ridicule en C1, et bah tu vas vite reperdre des points au classement UEFA.
Bon, oui, mais si t'as plus d'équipes, en C1, t'auras plus de points.
Ça divise les points en fait.
Ah, ça les divise.
Et oui, les points sont divisés par le nombre de participants.
Bon, en tout cas, les amis, ça pose la question de ce fameux ranking, comme on l'appelle, UEFA, qui attribue de manière excessive un nombre de tickets abondants aux clubs déjà, aux championnats déjà puissants.
Je voulais juste faire un petit problème
d'équilibre. Vas-y, très vite.
Minute sur pour prendre l'exemple de la Roma, parce que c'est pas un club qui gagne beaucoup. La Roma, je veux dire, ils ont 3 scudetti dans leur histoire, hein, bientôt 100 ans. Ils ont une Coupe d'Europe qu'ils viennent de gagner. 4 demi-finales consécutives en Coupe d'Europe, donc C3 et C4, 5 sur les 7 saisons passées avec une de C1, 3 de C3 et une de C4. C'est le club italien qui a le plus contribué au ranking UEFA au classement UEFA pour l'Italie. Et pour le moment, la Roma, si on en restait là, mais on n'en restera pas là, la Roma débuterait la saison prochaine comme la 5e équipe avec le meilleur classement UEFA derrière Manchester City, le Real, le Bayern et Liverpool. Comme énorme. Être performant dans les petites coupes d'Europe, ça peut servir.
Choisir les compétitions qui te sont dimensionnées. En tout cas, voilà.
Exactement.
Voilà pour ce bilan de Johan. Dans un instant, les amis, comment fait le Bayer Leverkusen pour ne jamais céder? Et puis, on va aussi parler de Gérone qui s'assure au minimum la Ligue Europa et United qui passe tout près de la catastrophe contre Coventry, mais qui s'assure bien une place en finale de la Cup. Et puis 0-0 en direct entre le Milan et l'Inter après 13 minutes de jeu, ça a été chaud, notamment avec Yacine Adli, le Milanais qui a failli en mettre une.
Adli Barella, c'était un peu tendu.
Ah, Barella. Restez avec nous, c'est les Drôles de Dames sur RMC, Génération After, 20h58. À tout de suite.
RMC.
Arriba Thiago, remata Ramos. Marco Ramos, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1.
Balotelli, Aguero. The greatest moment I've seen in Premier League football.
Stand 1-0 durch Andreas Brehme. Alles wie gehabt. Mit rechts, flach ins linke Eck. Koiko Echea wusste alles.
Pronto ad andare Pirlo. Il secondo palo. Palo d'arrivo. Materazzi.
Go. Materazzi. 20h-22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les drôles de dames, Fred Armel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet, on en sent jusqu'à 22h, magnifique générique, hein, qui passe de temps en temps lundi soir.
Il est beau. Hein.
Faudrait qu'un jour on s'arrête également sur les différentes façons de commenter les matchs en télé dans vos pays respectifs. Je crois qu'en Allemagne, il me semble, Polo, hein, c'est pas forcément des duos qui commentent le match. Hein. C'est une seule personne, c'est ça?
Non, c'est les duos maintenant. Tu poses une super question. Parce qu'en fait, il y a un problème. C'est la globalisation. Et c'est des grosses boîtes comme Sky qui ont en fait homogénéisé complètement la façon de commenter les matchs. Et ça fait pas honneur au football des nations, j'ai envie de dire. Quoi. C'est que tout le monde comprenne la même chose au même moment, etc. Donc moi, j'aimais bien à l'ancienne. Moi aussi.
Moi, je me souviens d'une Coupe du Monde que j'avais suivi parce que j'étais en Espagne, j'avais suivi sur la TDF. Et donc c'était pour certains matchs que donnait pas la télévision espagnole, et j'aimais bien en fait l'unique commentateur parce qu'on était que sur le match, on n'était pas dans des délires. Parce que parfois, et ce que j'ai vu le pire en Espagne, c'était sur Antena 3 les matchs de Ligue des Champions commentés par 5 personnes.
Ouais, pas possible.
3 dans la cabine, une personne en bas
bord terrain
et un consultant arbitre qui était en studio.
Et puis on fera aussi le débat consultant, cher Apollo, un jour, sur vos consultants également, l'approche des consultants dans vos pays respectifs aussi, bien sûr. But de l'Inter, mon cher Johan.
À Cherby, de la tête, exactement. Et donc là, ça commence à être dur pour le Milan, parce que déjà, on passe de perdre le derby, et en plus, c'est ce derby qui va donner le titre au rival interiste, donc là, il va rester une bonne 70 minutes pour essayer de faire en sorte de ruiner la fête de l'Inter, parce que déjà que la saison, elle est pas dingue, mais si en plus tu perds ce derby qui donne le titre à l'Inter, ça va pas être génial.
Ce serait beau symboliquement que le vieil Acerbi consacre le titre de l'Inter cette saison. Bon, mon cher Julien, Manchester United a sombré en 30 minutes contre le 8e championship, je parle d'une demi-finale de Cup, Coventry. 3-0, puis 3 partout. Au bout, la qualif, certes, mais ça fait tâche. Comment on explique que ce United-là, dont on parle régulièrement lundi soir, on connaît les carences de l'effectif de Ten Hag, a pu sombrer comme ça en une demi-heure contre un... Même pas un cadre, je sais pas de chip, même pas une équipe en pleine bourre, en l'occurrence,
ouais, tout, tout à fait. Ça résume finalement assez bien la saison d'United. Tu l'as dit, les difficultés de cette équipe, de Ten Hag, tactiquement notamment, dans le contrôle d'une rencontre qui n'ont jamais fait cette saison, pas simplement contre Coventry hier à Wembley, mais tout au long de la saison où t'es capable effectivement de concéder des buts comme ça avec 2 minutes d'écart, 3 minutes d'écart, 5 minutes d'écart. On l'avait expliqué la dernière fois après la défaite incroyable à Chelsea 4-3, mais ils ont été impliqués cinq matchs cette saison d'une victoire, d'une défaite 4-3, ils prennent trop de buts. Et là encore, t'as bien senti qu'il y avait aucun contrôle finalement dans même à 3-0, tu sentais que Coventry pouvait revenir, une équipe de Coventry qui, tu l'as dit, est pas c'est une équipe intéressante, et ils ont failli monter la saison dernière, mais ils ont perdu leur meilleur joueur, notamment Victor Gyökeres, qui est parti au Sporting Portugal. Donc voilà, c'est même pas un Leicester ou un Southampton en Championship. Et pourtant, en l'espace d'une demi-heure, ils sont revenus à 3-3. Ils auraient dû gagner d'ailleurs en prolongation. Ils ont tiré sur la barre, comme Bruno Fernandes. Et puis ils ont eu ce but qui a d'abord été validé par l'arbitre avant que la VAR n'intervienne pour un hors-jeu de 3 mm juste avant la séance de tir au but. Et quand tu gagnes une séance de tir au but, tu sais, et que le penalty vainqueur, donc le joueur qui a marqué, célèbre et se retourne et qu'il n'y a aucun de ses coéquipiers qui lui court après pour lui sauter dessus, c'est que tu sais très bien le degré d'embarras finalement qu'a touché Manchester United et ses joueurs, parce que ils sont passés très 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 proches de la catastrophe. Et même dans un sens, c'était catastrophique de se retrouver là dans ce match-là qu'ils avaient dominé pendant une heure finalement. Mais voilà, c'est United cette saison. Si tu es supporter de Manchester United, c'est un peu ton quotidien, et ça doit être horrible d'ailleurs, parce que t'es jamais sûr de rien avec cette équipe, et t'es jamais sûr de rien non plus avec Erik ten Hag. Et c'est pour ça, je vais le répéter encore une fois, pour moi, il sera pas là la saison prochaine, c'est impossible. Alors s'il avait perdu hier, à mon avis, il aurait même sauté avant la fin de saison. Là, t'as une finale de coupe à jouer, il sera là jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la finale de la Coupe d'Angleterre contre City, la même que la saison dernière d'ailleurs. Et Sir Jim Ratcliffe, qui est donc le nouveau chef, on va dire, du côté sportif, d'ailleurs, qui a couru le marathon de Londres hier à 71 ans en 4h30. Respect quand très même, fort. Le gars. Ouais. Vraiment très, très fort. Et qui est donc ensuite est allé voir cette catastrophe en direct depuis une des loges de Wembley. Moi, je sais pas, il était à Stamford Bridge quand ils se sont écroulés contre Chelsea. Il a vu quand même des humiliations absolues cette saison, notamment aussi en Ligue des Champions. Je vois pas comment il pourrait garder Ten Hag. Mais la rencontre d'hier, la performance d'hier, les deux facettes finalement de United, le bon côté pendant une heure et le très mauvais côté pendant une autre heure. Pour moi, c'est Ten Hag le responsable aussi avec les joueurs, même s'il a des blessés, même s'il a tout ça. Donc, je vois pas comment il pourrait le garder la saison prochaine.
Bon, Alan Shearer, hein, te rejoint. Il disait aujourd'hui, la décision a déjà été prise. Il sera licencié, même en cas de sacre en FA Cup. On verra ça dans les prochaines semaines. Alors, beaucoup de messages quand on parle United, sur le chat de l'After notamment. Tu vois, on nous dit Anthony, zéro le chambrage. Qu'est-ce qu'on nous dit également? L'interrogation Marcus Rashford aussi, mon cher Julien. Ouais, comment ce joueur a-t-il pu être aussi impactant à United et aujourd'hui presque anonyme dans cet effectif-là? Comment on commente ses performances, son évolution, et comment on l'explique surtout?
Oui, alors il a eu quelques soucis dans sa vie privée qui peut peut-être expliquer un petit peu aussi la méforme à un moment. Et surtout, je pense que c'est un joueur qui marche à l'affect, ça c'est sûr, mais qui marche aussi à une dynamique positive, si tu veux. Donc c'est le genre de gars typiquement qui, s'il marque 2 matchs d'affilée, tu sais qu'il est dans une bonne série, que ça va continuer comme ça. Et au contraire, quand il traverse une période difficile, il a beaucoup beaucoup de mal en général à s'en sortir. Et la saison dernière, elle marche très très bien parce qu'il a justement cette dynamique assez incroyable. Il enchaîne et puis tu vois, tout ce qu'il tentait, ça marchait. Il est toujours au bon moment, au bon endroit, au bon moment à chaque fois. Il a un timing parfait. Il a tout cela. Donc, il pense à rien d'autre finalement. Il sait que tout s'emboîte parfaitement. Là, quand tu commences mal la saison, c'est compliqué. Il y a eu quelques rumeurs l'été dernier sur le fait que United puisse vouloir le vendre, des choses comme ça. Et au final, c'est difficile pour lui. Après, je pense que ça reste un joueur super talentueux, il y a aucun doute là-dessus, mais je sais pas, de toute façon ça marche pas pour l'équipe, c'est pas que lui, hein, Bruno Fernandes, c'est pas une bonne saison, à part le jeune Kobbie Mainoo dont on a souvent parlé, les autres c'est catastrophique, c'est compliqué,
José Mourinho dans une interview aujourd'hui dans le Télégraphe disait, mais il y a encore des joueurs dans cet effectif, dans cette équipe aujourd'hui. Mais moi, j'en voulais plus il y a 6 ans déjà, quand j'étais là. Il y a 5 ou 6 ans.
Il parle de qui?
Pourtant, ils sont toujours là.
Il parle de qui? Il parle de Maguire.
Wan-Bissaka. Ouais, un Wan-Bissaka par exemple aussi. Tu vois, des joueurs qui ont pas le niveau pour être là, qui ont pas le niveau pour être là. C'est pas, j'ai rien contre Wan-Bissaka, j'ai rien contre Maguire, mais c'est pas bon, c'est pas le niveau. Scott McTominay non plus. À la rigueur, peut-être des joueurs de, tu vois, de pour être dans l'effectif, mais c'est tout. Alors là, tu les mets titulaires parce que effectivement, c'est ce qui est vrai, c'est qu'ils ont eu beaucoup de blessés. Mais Liverpool a eu beaucoup de blessés, Newcastle a eu beaucoup de blessés. C'est pas, il y a pas que eux non plus en Europe qui a eu beaucoup de blessés. Et encore une fois, pour moi, le manque de leadership que tu vois encore à 3-0, ils prennent le but du 3-1 et tu sens tout de suite au stade ou à devant ta télévision que c'est en train de tourner. Il y a aucun leader ni sur le terrain ni sur le banc de touche. Ten Hag, c'est pas un leader, il a aucun charisme, il a aucune personnalité. Les joueurs, à un moment, je pense, ont arrêté de le respecter aussi, si l'on respecter un moment déjà. Et sur le terrain, c'est pareil. Casemiro, il a pas envie d'être là, tu le vois très bien.
Il est venu pour l'argent. Ah ben, est-ce que tu as vu l'interview qu'il a donnée au Chiringuito?
Carlo Ancelotti était quasiment en larmes quand
c'est... Ah non, en larmes, il a dit qu'il, voilà, et qu'à ce moment-là, il était en larmes et que...
Quand il va dans son bureau, Casemiro va dans son bureau.
Et il dit au revoir à Ancelotti et il se retourne et il voit que Ancelotti est en larmes. Je m'étonne pas de Carlo.
Mais rappelle-toi, il voulait pas y aller, Fredo.
Mais non, donc, mais il est allé pour les sous.
Voilà, il est allé parce que c'était une offre impossible à refuser.
Mais voilà, c'est ça. Donc, et c'était tellement d'argent que voilà, il a raconté dans cette interview avec Edouard Guiré, qui connaît très bien, donc c'est vraiment une belle interview, que à un moment il s'est dit, est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Et là il s'est dit, oui, mais bon, j'ai donné ma parole et voilà, donc c'était pas signé, mais j'ai donné ma parole. Et puis voilà, après j'imagine que sa famille aussi l'ont dit, écoute, tu prends un chèque énorme que tu prendras jamais au Real, tu en profites. Mais il gagne combien, Casemiro?
En plus, c'est un contrat de 4 ans avec une option supplémentaire, donc potentiellement 5 ans. Et je crois, je me rappelle plus exactement les trucs, mais je crois qu'il est pas loin des 350 000 euros par semaine.
Donc ça fait combien par an? Parce que nous, on calcule en...
Ça ferait du 1,4 million par mois.
Ah ouais, d'accord. Ah oui,
ça ferait
17 millions.
Je crois qu'il était à quelque chose comme 18 millions l'année.
Non, on y va.
C'est incroyable.
Bah oui, mais enfin, c'est c'est 3 fois plus qu'au Real, quoi.
Bien sûr.
Bon, c'est
ça nous rappelle également qu'il y a 11 ans jour pour jour, j'ai vu ça sur Twitter, Robin Van Persie marquait le but du titre pour United face à Aston Villa, notamment. Voilà, c'était il y a 11 ans déjà.
Dernier titre de champion.
Tout à fait. Voilà pour United. Je sais que vous êtes très nombreux à être fans de United, à poser des questions à Julien régulièrement. Voilà, on en parlera jusqu'à la fin de la saison. On évoquera aussi la succession éventuelle d'Erik ten Hag. Beaucoup.
Attends, juste pour finir rapidement, parce qu'on a parlé d'un chambrage tout à l'heure d'Anthony. C'est peut-être le pire finalement de ce qui s'est passé hier, et ça montre encore bien où est le club de Manchester United. C'est que quand Hoyland marque et que les pauvres joueurs de Coventry sont complètement effondrés, le seul qui se retourne pour chambrer, qui met les mains derrière les oreilles, c'est Anthony quand même. Cette pipe d'Anthony qui a coûté 80 millions d'euros, qui sert à rien, qui a marqué contre Newport en coupe d'Angleterre et qui se permet d'aller chambrer des joueurs de Championship qui sont 8e, qui ont même mieux joué que toi sur la dernière. Je comprends pas, moi. Pour moi, je suis désolé, mais c'est un scandale absolu.
Voilà, le coup de gueule de Julien. Dans un instant, le Bayer Leverkusen, l'invincible, encore 6 matchs pour faire une saison, 8 matchs hein, d'une totale invincibilité. On en parlera avec Polo et puis bien sûr Gérone hein, qui s'assure, et ça c'est un événement cette saison. Personne n'y avait l'avait imaginé, une place en Coupe d'Europe et certainement en Ligue des Champions. Reste avec nous, toujours 1-0 pour l'Inter sur la pelouse du Milan après 28 minutes de jeu. Les Drôles de Dames sont là jusqu'à 22h et 21h45. Vos appels au 32-16, le standard est ouvert. Max est là, appelez, posez vos questions à Fred, Polo, Julien et Johan. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Polo Breitner, avec Johan Crochet, avec Fred Armel et Julien Laurence. Toujours 1-0, hein, mon cher Johan, pour l'Inter hein, sur la pelouse du Milan. On vient d'entrer dans le dernier quart d'heure de la première période. On en parlera tout à l'heure. Je rappelle que l'Inter, en cas de victoire, sera championne d'Italie. L'Allemagne, Polo, le Borussia Dortmund, pensait créer l'événement ce week-end. Devenir enfin le premier à battre le Bayer Leverkusen. Puis à la 98e minute, Josep Stanisic a surgi. Et égalisé. 45e match sans défaite consécutif. Toutes compétitions confondues. Borum reste la dernière équipe à avoir battu le Bayern. C'était lors du dernier match de Bundesliga, la saison dernière, une autre époque. Et Polo, donc encore une fois, le Bayern évite la défaite au bout d'un match. Qu'est-ce que ça raconte, cette équipe? Raconte-moi un peu là.
Ben, ce qu'on dit en Allemagne, très clairement, en fait, on commence à en rigoler. mais parce que ça devient bon, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça très au sérieux de ne pas être battu, etc., et que ça peut être historique, blablabla. Bon, je rappelle que Leverkusen est en Europa League, c'était pas en Ligue des Champions, hein, comparé à la Juve de l'époque, hein. Donc ce record, ok, oui, c'est très beau, tout ce que tu veux, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir gagné la Bundesliga pour la première fois. Moi, ce que ça raconte quand même, c'est que coach Alonso a réussi à faire passer à ce club plus que cette équipe le refus de la défaite. Mais là où je suis un peu colère, c'est que il fait tout pour perdre quand même. Parce que la compo qu'il met contre West Ham, je pense que c'est pas Julien qui me contradira, la première mi-temps, c'est la pire mi-temps de la saison, et c'est vraiment insupportable à regarder. Mais il nous fait une chose qu'il a souvent fait en Bundesliga lorsque son équipe est en difficulté, c'est qu'il change à la mi-temps, il modifie et t'as une deuxième équipe qui arrive. Là, c'est pas pareil, il nous fait autre chose, il trouve le moyen de nous mettre à 11 de départ, parce qu'il a fait, c'est sa grande mode en ce moment du turnover, d'ailleurs il en fait peut-être un peu trop. Il a commencé l'équipe sans attaquant. Donc Boniface et Chic étaient sur le banc. Tu trouves ça bizarre, moi, le fait que Chic soit titulaire à la place de Boniface, quand tu connais la densité et le physique des équipes anglaises, ça m'a un peu perturbé. Donc voilà. Et là, il fait ça. Et puis il arrive à dominer la rencontre. Et puis finalement, ça veut pas. Et à la 81e minute, il y a Fulcrux qui marque, inspiré peut-être par son but contre l'Atlético, qui met le 1-0. Et on se dit, allez, c'est fini. Et même lui, le coach, il y croyait plus. Et en fait, à 98e minute, il y a sur un corner, ça arrive, sur un centre, pardon, ça arrive. Et il égalise à la 98e minute, et donc ça continue, mais on commence à en rigoler, si tu veux, en Allemagne, parce que on a le sentiment, bah, que tout leur réussit et que c'est un petit peu délicat de ne pas perdre. Mais moi, honnêtement, quand je regarde ce qu'il fait en ce moment dans ses compos, quand je regarde la façon de jouer de Leverkusen, etc., faudrait peut-être pas pousser le bouchon oui, trop loin, parce que
il se laisse un peu griser, quoi. Non, aussi, ouais,
j'ai le sentiment qu'il y a un petit truc comme ça. Maintenant, encore une fois, 45 matchs en défaite extraordinaire, 28 buts marqués, je crois que c'est un record, toutes compétitions confondues, lors des 10 dernières minutes des rencontres. Alors il y a les arrêts de jeu, mais il y a aussi à partir de la 80e minute, c'est 28 buts toutes compétitions confondues, c'est quand même assez un ratio assez important. Donc c'est une équipe qui ne lâche pas, mais j'aimerais bien qu'on revienne à un petit classicisme un petit peu quand même dans le 11 de départ, parce que il y a un moment, ça va faire boum, quoi. Il faudrait pas que ça tombe contre la Roma, bien entendu.
14 buts dans le temps additionnel. Je voyais ça aussi. 9 points pris dans les dernières secondes des matchs.
Le titre, il est ça. L'écart. Là, il y a 14 points d'écart avec le Bayern. L'écart, il est là, hein. C'est pas compliqué. Là, avant, il y a 2-3 journées, j'ai pas fait le calcul. Il y en avait que 6. En fait, si on enlevait les arrêts de jeu. Mais c'est assez impressionnant de, et puis parce qu'ils vont le gagner là, la victoire contre Leipzig, le match contre Hoffenheim, même l'Europa League, hein, contre Karabag et tout ça, hein, qui était déjà un avertissement sans frais à l'aller et au retour. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, et c'est pour ça que plus que le mot Unschlagbar, imbattable, on parle des imprévisibles, parce que tout le monde peut marquer au milieu de terrain, sur les côtés, Frimpong qui jouait d'ailleurs quasiment en deuxième attaquant avec Telas à Dortmund, mais tu en rigoles. Moi, quand j'ai vu l'égalisation, honnêtement, j'ai rigolé sur mon canapé, quoi. C'était non, mais parce que je pensais vraiment que Dortmund allait le faire. Mais c'est fou, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui peut leur arriver? Enfin, Julien pour en parler. La première mi-temps de Leverkusen contre West Ham, c'est dégueulasse, quoi. C'est insupportable.
C'est vrai,
c'est
pas
ça.
Génial. Ouais.
Mais le 2-0. De partout à l'arrivée. Dans l'histoire, je voyais ça, seul un club anglais, Preston North End, premier champion anglais en 1888-1889, a réussi à remporter le championnat et la coupe sans jamais perdre un match. Voilà.
Donc voilà. Arsenal l'a fait en 2004, invincible dans le championnat, en tout cas, sans perdre un seul match du championnat.
Et la coupe, là. Tu vois, c'est ça le truc.
Ouais, mais il y avait moins d'équipes. Aussi.
C'est vrai, il y a beaucoup moins d'équipes, c'était 23 victoires, 4 nuls, hein, tout simplement.
Oui, c'est ça. Il n'y avait pas les problèmes de calendrier à l'époque.
Pas le même problème.
Bah si, parce que les mecs, ils devaient bosser à côté.
Polo, juste Sébastien Haller, alors certains diront que c'est anecdotique, hein, qui est quasi forfait pour la demi-finale contre le PSG.
Oui, déjà qu'il n'était pas titulaire, qu'il s'était blessé, il s'était révélé, j'ai envie de dire, à la CAN en marquant des buts.
Mais ça l'a pas vraiment relancé, en réalité.
Ça l'a pas vraiment relancé, parce qu'il s'est blessé à nouveau, et donc là, c'est saison finie. Donc on aura Fulcrux, voire Moukoko qui joue quasiment pas, tout ça est bien pauvre pour le Borussia Dortmund, mais comme on a dit que peut-être les Allemands allaient se qualifier via la 5e place en Bundesliga, ça se trouve, Dortmund se retrouve en Ligue des Champions l'année prochaine.
On parlera abondamment de ce match, hein. demi-finale aller de Ligue des Champions la semaine prochaine avec toi, mon cher Polo. Gérone, voilà, Gérone avance bien. Gérone en a passé 4 à Cadix ce week-end. Gérone sort en Coupe d'Europe, ça c'est sûr. Mais laquelle, ça c'est le suspense de la fin de saison, Fredo.
Rappelez-vous,
ça a tenu. On a cru que ça allait craquer dans les grandes largeurs.
C'est ça le truc. À ce micro, on parlait notamment après la défaite contre le Real, qui était la fin des espoirs de Liga pour les joueurs de la Catalogne. Parce que quand tu as un objectif comme ça, un objectif complètement fou en disant oh, on va peut-être le faire, ça porte une équipe. Ça porte. Quand tu crois que tu vas pouvoir être champion d'Espagne, que ton coach te dit à un moment, dans 10 matchs, on fait le bilan, et je dirais si on peut y croire, naturellement, il y a quelque chose d'indéfinissable qui porte les joueurs. Donc quand cet objectif-là n'est plus possible, et on l'a senti, ça a été dur. Il y a eu plusieurs défaites un peu difficiles. Et là, certes, c'est contre Cadix, mais la première période de Gérone, elle est magnifique. Deuxième période, pas terrible, mais la première période est magnifique. Et cette équipe-là, aujourd'hui, d'un point de vue purement comptable, est au minimum, même si elle perd tous ses matchs, elle est au minimum en Ligue Europa. C'est exceptionnel. C'est une équipe qui, en début de saison, visait uniquement le maintien. Donc c'est merveilleux. Il reste 6 matchs. Et cette équipe de Gérone a simplement besoin de 9 points. Donc 6 matchs, 3 fois 6, 18. De 9 points, c'est-à-dire la moitié des points, pour être sûr, sans dépendre des autres, d'être en Ligue des Champions la saison prochaine.
Peut-être que moins que 9 points suffiront. Ils ont 10 points
d'avance. Oui, en plus, ça, donc... Mais le truc, c'est que même si les poursuivants gagnent tout ce qu'il faut, ils sont. Donc, ça veut dire qu'on peut. On est quasiment sûr du côté de Gérone d'être en Ligue des Champions. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il vaut mieux pour cette équipe d'aller en Ligue des Champions ou en Ligue Europa? Ils vont pas calculer, hein. Ils vont pas calculer. Mais est-ce que c'est pas finalement un fossé trop grand quand t'es Gérone d'aller en Ligue des Champions? Les investissements qu'il va falloir faire et tout ça.
Mais après, ils se posent pour Brest chez nous, tu sais.
Mais voilà. Ils prennent le truc. Puis après, il y a la question du stade, l'homologation du stade, etc. Tout ça va poser en Europe, quoi. Même en tout ça, en Ligue des Champions, en Europa League, il y a des choses qui vont devoir évoluer. Mais il faut applaudir Michel. La question aussi, on s'est posé la question sur Xabi Alonso. Je veux dire, Michel est quand même l'entraîneur à la mode. L'entraîneur à la mode du football espagnol. Franchement, la Liga n'a pas été terrible cette saison et la bouffée d'air frais a été Gérone, le Gérone de Michel. Donc, il faut applaudir cette équipe, il faut applaudir le. Et c'est vrai, ce week-end, je regardais de nouveau l'effectif, quoi. C'est un peu fait de briques et de broc, finalement. Voilà, et c'est. Quand tu vois Eric Garcia, dont tu voulais plus au Barça, il fait une super saison. Quand tu vois Savinho, prêté par le Citigroup de Troyes, etc. Il a réussi. Et puis, là aussi, il y a un titre qui est un titre individuel, mais qui compte énormément en Espagne, c'est le Pichichi. Dovbik est actuellement, avec 18 buts, leader du Pichichi.
Avec combien?
18 buts.
C'est ce que je préfère.
Qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit 18 autre chose. Ouais.
T'as remplacé la voyelle.
18. D'accord. J'ai dit 18 bottes. Non, 18 bottes, pardon.
Ah non, t'as pas dit ça non plus.
Ah non, j'ai pas dit ça.
T'as pas dit ça non plus.
Ah non, mais c'est 18. Bon, c'est bon. Je pense que
vas-y, vrai, pour les états gravés.
Et Bellingham qui a marqué aussi, il est 17e. Donc finalement, il y a aussi ce petit championnat entre ces deux joueurs. L'un des deux va être Pichichi. Et en Espagne, c'est hyper important, Pichichi, quand même. C'est comme Capo Cagnolet en Italie, quoi. Ça marque. Donc, moi, je trouve que c'est une saison absolument merveilleuse. Après, la question, c'est est-ce que le fait, et là, je n'ai pas la réponse, est-ce que le fait d'appartenir à Citigroup va permettre à cette équipe de ne pas être pillée? Voilà, on ne sait pas. Parce que.
Ils vont perdre Savinho déjà, qui va aller à City.
Et c'est ça,
voilà. Mais c'est leur voilà.
Donc, début, c'est. Non, mais t'as raison. Pareil pour Michel, pareil pour Dovbik.
Tu vois, Dovbik, ils vont se faire attaquer sur
Dovbik, t'imagines. Après, tu te dis, bon, je reste un an à Gérone, je me montre encore plus parce que je me montre en Ligue des Champions.
Oui, mais tu risques de souffrir en Ligue des Champions.
Oui, après, ça, c'est sûr.
T'as le temps de t'illustrer, t'as 8 matchs à jouer à minima.
Donc voilà. On y reviendra. On aura des nouvelles d'ici la fin de la saison. Parce que, mais c'est quand même une aventure absolument merveilleuse. Donc, bravo à Michel. Moi, c'est quelqu'un que j'ai vu jouer au Rayo, hein. Lui qu'on appelait Michel Primero de Vallecas, c'est vraiment la belle aventure et ce qui a fait un peu c'est vraiment la très grosse cerise sur un gâteau qui était bien mince en Liga cette saison.
Bon, j'ajoute également le latéral Miguel Gutiérrez, hein, 22 ans, qui intéresse
il a été formé au Real. C'était un très bon, il avait été lancé par Zizou et c'est un bon joueur aussi. Non, c'est une super équipe, vraiment bravo.
Voilà, donc 18 buts pour Dovbik, ça fait beaucoup, 18. Hein. David,
c'est longtemps qu'on n'a pas eu un Pichichi qui était ni du Barça ni du Real.
Mais oui, non, mais ça, c'est génial. Enfin, franchement, c'est. Alors après, ça paraît pas beaucoup par rapport aux chiffres qu'on avait de Cristiano et de Messi. Mais on est dans une nouvelle époque.
Beaucoup pour un seul homme, je voulais dire, en tout cas. 18. C'est l'heure de la troisième minute de la soirée. Elle est italienne. On envoie la musique, Polo. Bah là, on y est, là.
Rentable italienne et même napolitaine. Magnifique. Évidemment, puisqu'on va aller du côté de Naples, une musique bien typique du sud de l'Italie, notamment de Naples, mais aussi dans les Pouilles. Et ben, quand on parle de Naples et des Pouilles, on pense tout de suite à un pont. Le pont, c'est Aurelio De Laurentiis, évidemment propriétaire du Napoli, propriétaire de Bari également, club en série B. Et bah comme c'est la crise à Naples, ils se sont dit bon, on va faire la crise à Bari aussi, comme ça on aura nos deux clubs en crise et ça sera pas plus mal. Défaite à Empoli, cataclysmique du Napoli. Un De Laurentiis à Aurelio furieux vraiment contre ses joueurs qui voulait les emmener en mise au vert punitive après la rencontre pendant une semaine avant le match du week-end contre la Roma. Finalement, ils ont décidé que ce serait peut-être contre-productif. De toute façon, on a aussi le sentiment du côté de Naples qu'il y a des joueurs qui ont clairement lâché et que maintenant ils savent que la Ligue des Champions ça paraît compliqué et donc ils sont plus dans leur délire de gestion de cas personnel avant l'été que collectif. Et puis à Bari, l'année dernière, on n'était pas très loin, on était même tout proche de monter en Serie A, et bien cette saison on est tout proche de descendre en Serie C. Et il y a vraiment grosse contestation des De Laurentiis depuis plusieurs semaines à Bari. Les supporters avaient commencé à faire grève des encouragements. Là, ils ont dit, bon, pour les 5 derniers matchs de la saison, on va tous se remettre la tête à l'endroit et vous encourager pour éviter de descendre. Mais voilà, du côté des De Laurentiis, l'été risque d'amener pas mal de révolutions à Naples, à Bari, et quand on sait qu'ils vont devoir vendre sans doute Bari dans les prochaines années parce qu'il y a une loi qui va bientôt arriver en Italie empêchant d'avoir deux clubs pour le même propriétaire, et ben on se dit que peut-être que Bari va devoir changer plus rapidement de propriétaire.
Voilà pour la minute de Johan. Toujours 1-0 à l'approche de la mi-temps pour l'Inter.
C'est un peu n'importe quoi là, la fin de mi-temps. Pourquoi ? Ça part dans tous les sens, il y a des erreurs défensives grotesques, des glissades, des relances dans l'axe. Bon, c'est un derby très très ouvert et pour ceux qui aiment les statistiques, à la mi-temps, l'Inter sera pas loin de 2 expected goals, donc ça vous dit un petit peu la performance défensive de l'AC Milan.
Bon, et puis là on me dit dernier Pichichi en Espagne d'un joueur qui n'est
plus
ni au Real, ni au Barça. Vas-y, il est uruguayen.
Moi je l'ai.
Il est uruguayen, messieurs.
Ben Luis Suarez.
Non. Il jouait Forlan. À l'Atlético de Madrid, Forlan, 2008-2009. Voilà. Bon, on parle pas de n'importe qui non plus. Et pas de n'importe quel club non plus. Voilà. Pause. Dans un instant, on revient et on parle encore une fois de la victoire de l'excellent travail réalisé par Thiago Motta à Bologne, hein, qui a fait un pas vers la Ligue des Champions. Quatrième de Serie A. On en parle avec Johan, bien sûr. Et vous, également au 32-16, vous nous appelez, le cœur des auditeurs approche aussi. Vous appelez Max au standard. Vos questions à Fred, Polo, Julien et Johan. Tout sujet, tout club. C'est ouvert comme tous les lundis soirs. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les drôles de dames, Fred Armel, Julien Laurence, Polo Breitner et Johan Crochet, toujours 1-0. C'est la mi-temps entre le Milan et l'Inter. Si on en reste là, l'Inter est championne d'Italie, même si le suspense est mort depuis quelques semaines déjà. Vous nous appelez dans quelques minutes au 32-16, posez vos questions. Quatre drôles de dames, elles y répondront. Tiens, nous parle déjà sur le chat de la chaîne YouTube de l'After de Ipswich Town qui va monter en première ligue. On veut que Julien en parle dans quelques minutes. Tu pourras en parler, mon cher Julien ?
Ouais, bien sûr, c'est pas sûr encore. Hein,
c'est pas sûr.
La bataille à 3, Leeds.
Ah oui, c'est la lutte avec Leeds, c'est bien sûr. Oui.
Leeds et Leicester aussi, ça va être fantastique jusqu'à la fin.
Bon, on en parle peut-être dans un instant. D'abord, la Serie A. Revenons sur le match de début de fin d'après-midi, mon cher Johan. Bologne a battu la Roma sur son terrain. 3-1 et prend 7 points d'avance sur la Louve, 5e, et fait donc un grand pas vers la Ligue des Champions. C'est peut-être l'info de la soirée pour l'instant chez toi en Italie.
Ah, ça risque d'être dépassé par l'autre info de la soirée dans pas longtemps, mais oui, c'était un super match, mais il y avait assez peu de doutes quand on connaît un peu le pédigré des deux entraîneurs et ce qu'ils montrent depuis, alors Daniel De Rossi depuis pas si longtemps que ça, depuis une quinzaine de matchs, Thiago Motta depuis au moins Spezia où il avait fait du bon travail. Mais on a eu un super match, très ouvert, beaucoup, beaucoup d'occasions. Alors la Roma, ils vont pouvoir s'en vouloir un petit peu. Alors oui et non, parce que ils sont les pauvres, à la fin du match, ils tiraient la langue, il y avait plus de tactique, il y avait des espaces béants. Mais quand t'as joué 65 minutes à 10 contre 11 en quart de finale retour jeudi soir, bah, ça commence à devenir un petit peu compliqué de finir les matchs aussi. Mais vraiment une très belle équipe de Bologne, une belle équipe de la Roma aussi, beaucoup d'occasions des deux côtés. La Roma finit avec vraiment le double d'expected goals, par exemple, de Bologne, avec des grosses occasions de Pellegrini, de Paredes qui tire, le but est ouvert. Il n'y a plus de gardien puisqu'il l'a dribblé, pied gauche, et il tire à côté. Donc il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup d'occasions. C'était très agréable, divertissant pour ceux qui ne sont pas forcément spécialistes de la série, en tout cas. Mais on est aussi dans une saison où... ça fait partie de ces saisons où Bologne, t'as l'impression qu'ils peuvent tirer du parking et ça fera lucarne, quoi. Il faut pas tout mettre sur la chance, hein, parce qu'ils jouent vraiment très bien. La tactique de Motta était très propre. Ils ont attendu la Roma beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Beaucoup de vitesse sur les côtés avec Ndoye qui a fait beaucoup de mal à Angelino d'abord. Et ensuite à Spinazzola. Un joueur comme Zirkzee qui venait très bas pour récupérer des ballons et faire des décalages, des joueurs qui venaient à hauteur pour prendre les espaces. C'était vraiment très très bien joué, mais t'as aussi la saison où tout te réussit, où tu tentes n'importe quoi, ça réussit, tu tentes une passe en profondeur de 40 mètres, elle va aller pile dans les pieds, tu tentes une transversale de 35 mètres, elle va aller dans les pieds aussi, t'as le petit miracle que l'adversaire rate des grosses occasions, donc tout réussit à Bologne, mais en même temps, c'est assez plaisant que ça soit ça, parce que quelque part, alors moi j'aime pas trop le principe du mérite dans le foot, mais quelque part ils ont tellement une attitude positive pour le jeu, pour le spectacle, pour le développement des joueurs à travers le jeu, pour obtenir des résultats à travers le jeu, avec une vraie méthodologie de travail de Thiago Motta, que quelque part ça fait aussi plaisir de voir cette équipe de Bologne qui va être récompensée, parce que maintenant ça c'est pas fait mathématiquement, mais commence à y avoir un petit trou, hein, avec la cinquième place maintenant, parce que c'est plus avec la quatrième qu'il faut regarder. Donc t'es alors
il y a 7 points d'avance sur la Roma là, mais la Roma qui a un match
t'as le match un peu bâtard des 20 minutes de la Roma qui reste à jouer à Udine, où ça peut faire défaite, match nul, comme c'était le cas à l'arrivée.
Il y avait un partout.
Ou victoire de la Roma, mais t'es sur un beau petit matelas pendant que la Roma et l'Atalanta qui sont juste derrière, bah eux ils vont s'épuiser encore en Ligue Europa, alors que toi t'as toute la semaine pour préparer tes matchs.
Et la Lazio n'est pas loin non plus avec 52 points. Finalement bonne opération pour l'Atalanta, hein, cette défaite de la Roma.
Totalement.
Qui a gagné à Monza ce week-end.
L'Atalanta qui a un match en retard aussi. Hein.
Et qui a un match en retard aussi, quoi. Qui est à un point de la Roma, cinquième. Voilà. Bon, tout va bien pour l'Atalanta.
Et c'est plutôt sympa que des coachs. Courageux, qui pensent au jeu, qui veulent que les joueurs progressent à travers le jeu et non pas être à 20 mètres du but et à défendre comme des acharnés, soient récompensés comme Gasperini, comme De Rossi, comme Thiago Motta. C'est vraiment très satisfaisant. Et attention à la Juve, hein. La Juve n'a plus que 2 points d'avance sur Bologne. Donc Bologne pourrait même passer 3e assez rapidement vu la série très négative de la Juve. Et juste pour finir, là où on aurait eu un Mourinho on fire ce soir, qui nous aurait expliqué que l'arbitre était invendu, que c'était n'importe quoi, que les cartons jaunes, blablabla, blablabla. Et ben, Daniel De Rossi, il est arrivé en conférence de presse, et il a dit, c'est pas possible de s'énerver autant, tout un groupe, pour un simple carton jaune, même s'il est sans doute trop sévère et qu'il n'aurait pas dû être donné. C'est pas possible de dégoupiller comme ça pour un simple carton jaune. Voilà ce qui est aussi la communication des entraîneurs 2.0.
Est-ce que Thiago Motta va faire une Xabi Alonso? Est-ce qu'il va vouloir goûter, confirmer cette saison-là, et vivre la Ligue des Champions? Tout va dépendre encore une fois de la Juve, c'est ça l'histoire.
Alors, ça dépend beaucoup de la Juve. Ce qui est certain, c'est que Bologne aura mis toutes ses cartes sur la table avec la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas faire mieux que ça pour convaincre Thiago Motta. Ils vont lui dire, il y a la Ligue des Champions, on ne vendra pas tous les bijoux de famille, il y en a qui vont rester. On est quand même en capacité de bien recruter, parce qu'il y a l'un des 2-3 meilleurs directeurs techniques en Italie avec Sartori à Bologne qui prend des joueurs et qui sont très utiles pour les entraîneurs qui viennent à Bologne. Donc tout sera en place pour que ils pourront lui faire un meilleur contrat avec plus d'argent, tout sera en place pour que Thiago Motta prenne le temps de la réflexion et décide de soit rester à Bologne, soit d'aller voir plus haut, parce que plus haut, eh ben, il y aura des offres. Et l'offre principale, on le sait depuis un moment, quand je disais tout à l'heure, ça fait 6 mois qu'on en parle, de Thiago Motta à la Juve, piste principale, c'est clair, c'est net, c'est un ancien joueur qui a un vrai charisme, qui a un style de jeu très 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 différent de Massimiliano Allegri, qui fait progresser tous les joueurs, pas comme Massimiliano Allegri. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de cases cochées, en tout cas pour Thiago Motta à la Juve, et c'est le vrai candidat. Et bon, Leverkusen n'a pas la même position en Allemagne que Bologne en Italie. Leverkusen n'a pas la même capacité économique à retenir tous les joueurs qu'à Bologne. Donc c'est quand même assez différent, hein, le choix pour Thiago Motta par rapport à celui qu'a pris Xabi Alonso.
Bon, l'historique de Bologne en Coupe d'Europe, là je vois le palmarès, hein, c'est une coupe à tarte auto en 98. Une coupe des Alpes, finaliste de la Coupe des Alpes en 1969.
Il y avait une coupe des Alpes en 1969.
Tout à fait, 1969, voilà.
Il y avait des coupes.
Ce sera le grand monde.
Trois pas aussi.
À laquelle participaient la Coupe des Alpes, la Suisse, l'Italie, la France, l'Allemagne de l'Ouest et la Belgique. Tu vois. Alors, Belgique, je ne sais pas pourquoi.
Et l'Autriche, non ?
J'ai pas l'Autriche, marrant.
Ah, bah oui, il y a les Alpes autrichiennes, bien entendu. Oui. On parle du Tyrol.
Mais j'ai pas les Alpes. Mais la Belgique, les gars. Si vous avez la réponse, ceux qui nous écoutaient, n'hésitez pas à me le dire.
Les Alpes en Belgique ?
Oui, c'est bizarre. Invité peut-être, tu vois. C'est le Servette de Genève, FC, pardon, qui l'a emporté le plus de fois, 4 fois, la Coupe des Alpes.
On en apprend des trucs.
Magnifique, hein. C'est ça. C'est l'heure de la 4e minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, Polo.
A donde te escondiste, amado, y me dejaste congenido, como el ciervo huiste a bien.
J'ai eu des remarques la semaine dernière du présentateur de cette émission qui avait dit que j'avais mis de la musique d'ascenseur. Là, j'espère que ça convient.
Ça va.
L'enterrement, là.
Saint-Jean-de-Croix, Saint-Juan-de-la-Cruz.
Dans un ascenseur.
Saint-Juan-de-la-Cruz, poète mystique, religieux espagnol et docteur de l'Église, l'un des hommes les plus importants de l'histoire de l'Église catholique. Ses poèmes du XVIe siècle, mis en musique par Amancio Parada, qui a d'ailleurs aussi mis en musique des chansons de Léo Ferré. Voilà. Et je le connaissais bien à Madrid, c'est un très grand chanteur. La chanson, c'est « A donde estuviste ? » Où étais-tu donc ? Je vais vous parler du Deportivo. Parce que beaucoup de gens se disent bah, « Il est où le Deportivo ?» Il est en 3e division, le Deportivo. Il est à Real Federación, il est en Primera Federación. Il y a 30 ans, c'était les débuts du Super Deport. Vous vous souvenez le Super Deport, Bebeto, tout ça, enfin, extraordinaire. Ben, c'est 30 ans qui ont passé, le Super Deport est en 3e division, mais le Super Deport est premier de la 3e division. Et le Super Deport a en plus 7 points d'avance sur le premier qui va pouvoir monter. Donc le Super Deport aujourd'hui a de grandes chances de remonter en 2e division. Et le Super Deport, ce week-end, il y avait un match contre la Cultural Leonesa, où est né le chanteur dont je viens de vous parler, Léon. Et ils ont battu le record d'assistance à un match de 3e division, avec 29 079 spectateurs. C'est du jamais vu. Et ça fait plaisir. C'est l'occasion. Voilà. J'ai sauté sur l'occasion, pour rappeler qu'il y avait toujours un club magnifique du côté de la Galice, à côté du Celta Vigo, qui lui est en première division et qui souffre, bon, qui va rester, mais qui a beaucoup souffert. Mais de se rappeler, voilà, parce que je pense que le Super Deport a ému tout le monde dans le football. On se souvient notamment d'un match extraordinaire avec le PSG, avec un but de Djorkaeff, une super reprise de volée. Donc, le Super Deport vit encore. Il est en 3e division, il va sûrement monter. Et le Super Deport a toujours, on a aficionne, des supporters absolument incroyables qui ne l'abandonnent pas, même en 3e division.
Champion d'Espagne en 2000, il y a 24 ans déjà, avec notamment
Asensio Iglesias,
Roy Mackay.
Roy Mackay, oui, bien sûr.
Jalminha.
Pablo Cristán, Diego Tristán.
Diego Tristán, voilà.
Faudra un jour et le Deport avait quand même Milan. 4-0 à Milan.
Ah oui, c'est fabuleux.
Exactement.
Le fameux maillot bleu et blanc à rayures, là, magnifique.
Bon, faudra consacrer peut-être la semaine prochaine. Hein. On va essayer de se réinventer un peu.
Ouais.
Quelques minutes nostalgie, parfois lundi soir.
Moi, je suis pour.
Ça marche très toujours. On l'a fait notamment. Ce serait pas mal de l'insérer. Il va falloir qu'on trouve des nouveautés qu'on bosse cet été, les amis. Hein.
Mais c'est facile.
De bosser.
Tu vas chercher les clubs bisous
déjà. Ah non, mais ça c'est facile. Il faut trouver la forme pour le faire, tu vois. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'actu dans vos championnats respectifs. On va trouver le faire, la façon de le faire. Bon, c'était la dernière minute de la soirée. Dans un instant, le cœur des auditeurs, vous nous appelez au 32-16. Vos questions à Julien, Fred, Polo, Johan. N'hésitez pas, on aura 12-13 minutes pour y répondre dans Génération After avec les drôles de dames sur RMC, les 21h43. Et à la mi-temps, l'Inter est virtuellement championne d'Italie 1-0 sur la pelouse du Milan. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les drôles de dames, c'est le quart d'heure des auditeurs à présent. Le dernier quart d'heure de Génération After avant de passer la main à Gilbert, Daniel et Flo pour l'After comme tous les soirs jusqu'à minuit. C'est parti, je vais accueillir tout de suite Hugo au 32-16. Salut Hugo.
Lequel Hugo?
Hugo, c'est toi, tu es le seul et l'unique. Hugo, ah, bienvenue.
Okay. Je crois qu'il y avait deux Hugo.
Bon, non, tu es le seul.
Ok, bonsoir à tous.
Tu es Hugo Sanchez, bienvenue.
Salut,
Hugo.
Bienvenue.
Hugo Lloris.
Ouais. Et Julien, ouais. Il y avait Hugo Délire aussi, je ne sais pas si tu te rappelles. Julien.
Oui,
ah oui.
Tu te rappelles ce jeu-là? Avec le téléphone et les touches de téléphone.
C'est ça, avec le. Il n'était pas sur un petit chariot.
Si, 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 dans une mine, avec Karen Sherry qui présentait.
Exactement,
voilà, tout à fait. Bon, Hugo, alors, ta question est pour qui?
Elle est pour Julien.
Vas-y, vas-y.
Vas-y, Hugo, je t'écoute.
Par contre, c'est pas de la première ligue, c'est de la Championship. Tu as sûrement deviné, en fait, je viens de Nantes, je suis supporter du FC Nantes. Et tu as dû entendre que là, ils réclament 120 millions d'euros, là, Cardiff. Donc, ouais. C'est un peu choquant, déjà, je ne sais pas sur quoi ils se basent. Et ce qui est encore plus choquant, et ce qui a changé, c'est que quand Salah est parti, les supporters étaient plus ou moins solidaires entre eux, ceux de Cardiff et ceux de Nantes. Et là, sur les réseaux sociaux, tombe beaucoup sur des messages anti-nantais de supporters de Cardiff.
Ouais, j'ai vu certains messages, ouais.
Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi maintenant il y a un changement de comportement, pourquoi ils disent que Nantes c'est des meurtriers, etc., etc.
Alors, il faut préciser désolé Julien, je te parle dans un instant, que Cardiff réclame donc un préjudice à hauteur de 121 millions d'euros au FC Nantes. Ils ont fait appel à une société, c'est ça Julien, qui a expertisé le manque à gagner après la mort, le décès d'Emiliano Sala. C'est d'un cynisme absolu, c'est morbide, en expliquant qu'il aurait marqué tant de buts.
Voilà, s'il avait été là, ils auraient fait ça.
Et on se serait maintenu en première ligue. C'est hallucinant, hallucinant.
Ouais.
Tant de data... basé sur la mort de quelqu'un, quoi. Voilà. Julien, vas-y.
Ouais. Ah, ça, c'est une bonne question, Hugo. J'avais beaucoup suivi au départ, et j'avoue que là, j'ai lu l'article de l'équipe comme nous tous, qui explique très bien ça. Ma femme étant de Cardiff, je connais très bien le club, et les gens du club, les supporters, etc. À un moment, beaucoup de supporters voulaient que, voilà, on continue d'honorer, comme on peut le faire chaque année. Emiliano Sala, pardon, de la meilleure des manières, des deux côtés d'ailleurs, côté nantais comme côté gallois, qu'on abandonne maintenant ce genre de poursuites là, ces demandes d'argent qui sont ridicules, et qu'on, en fait, on salisse dans un sens un petit peu aussi sa mémoire, son nom, tout ça. Alors Cardiff, on connaît les propriétaires, malheureusement, qui ont pas toujours des très bonnes idées, et là pour moi, on est encore une fois, on a parlé beaucoup de ridicule ce soir quand même dans l'émission, malheureusement, et là on a encore atteint un niveau de ridicule assez incroyable, et c'est vraiment dommage.
C'est du sordide, hein.
Ouais, t'as raison, ouais. T'as raison, Polo, Fredo, t'as raison, absolument, et morbide, comme disait aussi Nico, je comprends pas ce que cherche finalement, Cardiff, à part l'argent, mais même l'argent, c'est pas des manières, j'ai du mal à comprendre, et si on se place de ton côté, Hugo, côté Nantais, juste pour finir, je comprends très bien que, voilà, que vous ayez cette interrogation, totale sur le fait, mais pourquoi, du côté de Cardiff, on nous en veut autant à nous, aux supporters nantais, qu'on rien fait dans cette histoire, mais tu vois, je trouve ça vraiment très bizarre et très très compliqué et très très dur à comprendre.
Voilà la réponse de Julien, mon cher Hugo. Je sais qu'à Nantes, on est très attaché à la mémoire d'Emiliano Sala l'Argentin. Bonne soirée à toi, Hugo. Je vais accueillir Gabriel au 32-16. Salut, Gabriel. Salut, Gabriel. Bonsoir.
Vuppertal, comment allez-vous?
Ah oui, c'est Gabriel, supporter du Barça, qui habite à Vuppertal, mon cher Polo, la ville de
Pinabauche.
Et de Derrick aussi. De Derrick.
Ouais, je préfère Pinabauche.
C'est pas de Engels. Il n'y a pas Engels qui vient là-bas.
Ah, moi, je sais pas. J'ai Derrick et Pinabauche à la grande corrida. Ah oui, d'accord.
Ouais.
Bon, alors ta question est pour Fred.
Oui, Fred. Bonsoir.
Hola, Tito.
Mon drôle de dame préféré.
Oh, t'es gentil.
Parce que tu aimes le Real, c'est le seul défaut que t'as.
Oh, tu sais, j'en ai plein d'autres, mais tu les connais pas.
C'est pas grave. On est tous imparfaits. Ma question, par contre, ça vient... Bon, comme je suis supporter du Barça, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe avec Cancelo. Ouf. Parce que cette semaine, il nous a carrément plombé la saison.
Contre Paris aussi, hein.
Ouais. Je suis très 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 déçu parce que c'est le joueur qui m'a très enchanté dès qu'il est rentré, dès qu'il a commencé la saison avec le Barça. Mais là, cette semaine, c'était une catastrophe totale. Il s'est fait manger par Dembélé hier soir au Classico.
avec le but. Match, ben, est-ce que tu as vu, est-ce que tu, quand tu regardes, quand tu regardes les buts, le but de Dembélé et le but de Lucas Vázquez hier, c'est quasiment les mêmes.
Ouais. C'est triste.
Et les mecs, ils reprennent tout seuls, quoi. C'est-à-dire que c'est, ouais. C'est terrible. Ben, la grosse réflexion qui se faisait hier à Barcelone, c'était on comprend pourquoi Guardiola ne veut plus de Cancelo, quoi.
C'est ça, exactement. Exactement. C'est la même réflexion. Enfin, réflexion.
Ouais, c'est dur, mais c'est vrai que il a été bien à un moment. Mais là, bon, bah, c'est une. Mais après, là aussi, je pense que le... Bah, comment dire? Est-ce qu'il a, il a trouvé sa place pendant un moment, mais c'est pas sa bonne place.
Non, je crois que l'autre côté, là où Koundé joue,
en latéral droit, il serait peut-être plus à l'aise que là. Mais c'était flagrant, franchement, quand tu superposes les deux buts qui ont été pris comme ça, qui sont deux buts importants, t'as vraiment l'impression après que c'est la même erreur commise par le joueur, quoi. Donc il y a beaucoup de critiques sur Cancelo depuis pas mal de temps.
Mollo parce qu'il a reçu des menaces de mort, malheureusement.
Mais ouais, mais ça, les gens sont fous. Donc moi, je le truc. Après, là aussi, il y a pas que le Barça a sombré défensivement. Ouais. C'est qu'à cause de Cancelo. Enfin, je veux dire, voilà, le Barça en prend combien, 4 contre Paris et il en prend 3 contre le Real. C'est pas que de la faute de Cancelo, évidemment. Quoi.
Voilà, Gabriel.
Voilà. Encore un grand bonjour à tous. Et la dernière fois, j'ai oublié de faire une dédicace à Lionel, grand supporter du Paris Saint-Germain, du Paris Saint-Germain. Et je vous embrasse tous.
Merci, Gabriel. Pareil. Adios. Très bonne soirée à toi. À très vite. Hugo, un autre Hugo. Effectivement, il avait raison. Le premier Hugo a une question. Bonsoir, Hugo.
Bonsoir, Nico. Bonsoir, les drôles de dames.
Bienvenue sur RMC, Hugo.
Salut, Hugo.
Question pour Polo.
Oui, question pour Polo. Alors, est-ce que je peux juste prendre deux petites secondes pour demander à Julien Laurent si le match de jeudi à Lille, comment il l'avait vécu?
Ah bah oui, t'es
Lillois. Ah, Hugo, j'ai adoré, franchement. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu dans ce stade. Là, j'ai rencontré plein de supporters lillois comme toi qui sont des grands fans de l'after. On a bien discuté dans le métro pour aller jusqu'à 4 Cambron, là, la station de métro pour aller au stade.
4 Cantons.
C'était génial. Ouais, malheureusement, ça s'est mal fini pour vous. Hein. Mais franchement, vous avez fait honneur au football français. Ça, faut le reconnaître. Vous avez vraiment très bien joué. Vous auriez dû passer, mais voilà, c'est comme ça. Ouais, il fallait bien nous laisser quand même un club anglais. Je me fais chambrer depuis tout à l'heure, donc au moins j'en ai un encore.
Non, pas de souci. Et oui, du coup, ma question pour Polo, là, je suis dans une phase un petit peu de scouting et il y a un joueur que je trouve très intéressant dans un club qui va un peu mieux en ce moment, mais pour qui c'était compliqué, Mayence, c'est Leandro Barreiro Martins, qui apparemment devrait signer, je pense que c'est fait du côté de Benfica pour la saison prochaine. Et avis sur le potentiel de ce milieu de terrain que je trouve très intéressant et qui a sa place dans le club qui jouerait la Coupe d'Europe l'année prochaine.
International, voilà, luxembourgeois, mon cher Polo.
C'est ça, luxembourgeois. Oui. C'est un des meilleurs milieux de terrain de Mayence. La qualité de l'effectif de Mayence ne reflète pas sa qualité sur le terrain en ce moment au classement, mais il la mérite, hein, tout simplement. C'est un superbe petit joueur. Quand je dis petit joueur, c'est pas péjoratif. C'est que je pense qu'il va faire une excellente saison au Portugal, normalement à Benfica. Ça fait partie, tu vois, des choses. Quand je m'amuse à jouer au scout aussi, il était sur ma liste. Et tu vois, j'aurais bossé pour Lyon par exemple, je peux t'assurer que j'aurais passé mon temps à taper à la porte du directeur sportif pour lui dire regarde. Donc c'est vraiment quelqu'un d'excellent au milieu de terrain, récupérateur. Il arrive en plus à être dans la surface, il se débrouille bien. Je pense que c'est une excellente opération. Voilà, tu vois, ce genre de joueur n'est pas valorisé au niveau médiatique, etc. En plus, sa nationalité, le fait qu'il est luxembourgeois, ça n'aide pas forcément. Mais là, c'est un joueur, je pense que Benfica va faire une superbe opération.
Voilà, Hugo, la réponse de Polo.
Merci beaucoup, mais je pense que tu as raison, Polo, c'est surtout je pense qu'il n'est pas un peu médiatisé dû au classement de Mayence.
Ouais,
je pense que s'il joue dans le top 5, top 6, je pense qu'on en parlerait beaucoup plus quand même.
Et c'est la chance de Benfica qui a su sauter sur l'occasion. Hugo, merci, très bonne soirée à toi. But de l'Inter, mon cher Johan.
Et ouais, Marcus Thuram qui vient sans doute donner le verdict final de ce derby parce que Milan est juste trop faible par rapport, ou c'est l'Inter qui est beaucoup plus fort que le Milan, peu importe par quel bout vous voulez le prendre, mais vraiment défensivement Milan c'est très compliqué, et dès que l'Inter accélère, que ce soit en transition ou même sur attaque placée, il y a beaucoup trop de différence. Et cette équipe de l'Inter qui va remporter le Scudetto, ça on le sait, sans doute maintenant ce soir, c'est la nouveauté du soir. Mais vraiment, elle a une qualité de jeu qui
fait que on a encore plus de regrets pour le match de Ligue des Champions contre l'Atlético à Madrid, parce que ce soir-là, il y a plein de choses que on n'a pas compris dans les performances des joueurs, dans les choix de Simone Inzaghi, et vraiment il y aura évidemment une très grande joie d'apporter la deuxième étoile sur le maillot pour le 20e titre de champion d'Italie. Mais il y aura aussi quelque part quelques petits regrets du match à Madrid.
Allez, question très courte de Franck que j'accueille tout de suite. Salut Franck.
Je voulais te poser une question à sa seigneurie de l'île de Ré.
Sa seigneurie de l'île de Ré. Question courte et réponse courte, j'aime beaucoup. Vas-y, ouais, Franck.
Bon, juste, t'as trouvé un personnel Baron Infernes à côté chez mon ami Tyson Fury à Morecambe. Bon, c'était juste pour te dire où était Baron.
Ah, d'accord.
Ok. D'accord. Non, j'avais une question, je vais te poser vite fait. Je voulais savoir si un jour, quand même, les clubs anglais, le championnat, c'est un championnat de champions, c'est le cas de le dire, ils vont penser un peu à se récupérer les équipes, là, parce qu'elles sont toutes fatiguées avant les matchs européens, comme on fait en France. Est-ce qu'ils vont un jour penser à réduire un petit peu, à les faire récupérer et les faire sauter un match un week-end?
Et à supprimer la Coupe de la Ligue, par exemple.
Bonne question. Ouais, je vais faire vite. C'est une très bonne question. Tu sais, on en a beaucoup parlé cette semaine en Angleterre après ce qui s'est passé en Ligue 1 et le fait que la Ligue 1 avait autorisé Lyon, Marseille et Lille à pas jouer en championnat le week-end précédent leur match retour. Et ça, effectivement, c'est un très bon débat à avoir. Et je pense qu'à un moment, on en avait parlé un petit peu après la défaite de City contre le Real avec Fredo sur le fait qu'à un moment, la fatigue a peut-être aussi un peu joué dû à l'intensité de ce, notamment pour la course au titre en Angleterre. Et c'est une réflexion qu'ils vont avoir. Mais j'ai, Franck, je pense que il y a tellement d'argent ici. L'argent est en roi ici que, à mon avis, ça changera rien.
D'accord. Bon, la prochaine fois que c'est pour les barreaux, je t'enverrai Tyson Fury, hein.
Allez, vas-y, ça marche.
Bonne soirée, Franck. Merci d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux sur RMC. Ouais, c'est terminé pour les drôles dames. Merci, les gars. Merci, Julien, Polo, Fred et Johan. Johan, tu vas rester. Tu seras dans l'after pour débriefer le très probable le titre de l'Inter ce soir, 2-0 sur la pelouse du Milan. Daniel, Gilbert et Flo sont là ce soir, l'after jusqu'à minuit comme tous les soirs sur RMC. Bye bye.